This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Hello, this is Paul Enns, director of Lucas Online, and you're listening to Star Wars on Direct.
StarWarsIndirect.com.
StarWarsIndirect.com?
There you will listen to Star Wars Indirect, the voice of Star Wars fandom.
Star Wars Indirect is a proud member of the Sci-Fi Podcast Network, TSFPN.com.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinates have to mean it's pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Bienvenue à tous, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, mon nom est Lunatic, je suis en compagnie de Sébastien GGM Real Mutez.
Bonjour tout le monde.
Donc aujourd'hui, quel est le programme de la 71e émission en date du 21 août 2005, désolé. Ce sera principalement comparer les fandoms, donc... comment compare-t-on le fandom de Star Wars aux autres fandoms tels que Stargate, Star Trek, Harry Potter, etc., etc. Comme second sujet, nous allons parler du roman Darkness 1 de Joyner King et nous ferons passer l'entrevue que nous avons faite avec Troy Denning, qui est l'auteur de ce roman, à la fin de l'émission. Puis que nous traduirons les questions principales par la suite pour ceux qui sont intéressés, parce que l'entrevue est bien entendu en anglais. comme d'habitude, nos chroniques. On a la chronique de nouvelles Star Wars, nos chroniques événements. On va avoir
On va faire une colique.
Une chronique sur les collectionneurs, etc. Et puis, comment nous rejoindre? Vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone par email à studio@swendirect.com ou un commentaire à la même adresse email studio@swendirect.com ou envoyer votre numéro de téléphone par MSN Messenger à Sébastien, qui est l'adresse swendirect@hotmail.com. Vous avez seulement à ajouter ce nom d'usager-là à votre liste pour faire partie de notre compte Messenger. Vous pouvez aussi recevoir de l'information sur notre émission en vous abonnant à notre newsletter. Cliquez sur le lien qui apparaît sur notre page d'accueil, je crois. Il faudrait que je revérifie, ça fait longtemps. Vous pouvez nous rejoindre dans le chat. Donc, allez sur www.swendirect.com, notre site officiel, et vous pouvez cliquer sur le bouton chat pour aller rejoindre tous ceux qui sont dans le chat présentement. Vous pouvez aussi nous voir sur la webcam. Elle devrait être activée maintenant. À gauche, vis-à-vis les deux écrans, c'est moi. Et à droite, c'est Sébastien. Et puis, tout est disponible au www.swendirect.com. Comme d'habitude, on vous invite à chaque émission à venir nous écouter en anglais, qui est l'émission hebdomadaire maintenant. Donc, c'est souvent un seul sujet, car les émissions sont d'une heure trente seulement. Donc, on concentre sur un seul sujet, contrairement à l'émission française qui maintenant est mensuelle. Donc, on essaie de mettre plus de contenu à l'intérieur de ces émissions-là. Donc, on vous invite tous les mardis soirs à 7h, 19h, heure de l'Est, ici en Amérique. Donc, malheureusement, c'est 2h du matin en France. Bon, comme ceux qui nous connaissent depuis longtemps, notre carte de son peut faire défaut quelquefois. Donc, si cela se produit, le son va couper. Restez là. On revient dans les 3 à 5 minutes qui suivent. Vous n'allez avoir qu'à vous reconnecter. Et puis, vous allez recevoir encore le signal. Qu'est-ce que je pourrais mentionner de plus? Maintenant, nos émissions en français ainsi que en anglais sont disponibles sur iTunes et via sur un podcast. Donc, vous pouvez vous abonner à nos archives par là. Donc, si vous êtes abonné, dès qu'une émission est disponible en archive, elle va être downloadée automatiquement sur votre ordinateur, ce qui peut être pratique. Donc, vous pouvez aller sur iTunes, faites une recherche sur le mot Star Wars et vous pouvez vous abonner à notre émission française et anglaise comme vous le voulez. Aussi, on recherche toujours un ou deux animateurs français pour faire une émission supplémentaire. Si ça vous intéresse, si vous avez l'équipement, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit démo de vous et vos amis en train de faire une émission qu'on puisse tester tout ça.
Juste mentionner rapidement que l'équipement, ça se consiste tout simplement d'un ordinateur, deux sets d'écouteurs micro et du bon train.
un autre micro.
Un troisième micro peut être préférable.
Si vous voulez une troisième personne ou avoir un téléphone main libre, très utile pour faire des entrevues et pour parler aux personnes par téléphone. Aussi, nos deux sujets aujourd'hui, vous pouvez aller laisser vos commentaires sur le forum de Citlan. Il y a un lien qui est dédié au sujet du jour, comparer les fandoms. Il y a déjà quelques personnes qui ont posté leurs commentaires. Allez faire de même pour qu'on puisse vous lire un petit peu plus tard dans l'émission lorsque sera le temps venu. Alors, Sébastien, as-tu vu un film ou lu un livre? Moi, j'ai pas...
J'ai lu The Joiner King.
Ouais.
À part de ça, rien qui pourrait intéresser nos fans, malheureusement. Et au niveau des films, à part Star Wars épisode 3, non.
Encore une fois?
J'ai pas vu de film. Dans le dernier mois, là.
OK.
On s'entend.
Bien sûr.
J'ai pas eu la chance de prendre le temps d'aller au cinéma.
Et ça fait un total de combien pour Revenge of the Sith au cinéma?
Revenge of the Sith au cinéma, je vais l'avoir vu seulement 7 fois.
Faut pas faire honte à tes records.
Ben, je pense que celui-ci va faire honte à mes records au niveau cinématographique, mais là, il est au Centre Eaton, j'ai peut-être encore une chance d'y aller, okay. Puis ça coûte un petit peu moins cher, donc.
D'accord.
Tant mieux.
Donc, sur ce, allez déposer, allez écrire vos commentaires sur le forum, puis on vous revient après la pause avec tous les petits détails dans les nouvelles qu'il y a eu au cours des derniers mois. Donc, à tout à l'heure.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hello, I'm Garrick Hagen, Big Star Collider from Star Wars: A New Hope. And you're listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Alors Sébastien, tu nous lis les journaux le chat.
Alors dans le chat présentement, on va commencer par en bas, il y a X-Men, THX 2002, Silka, Raven, Nebaf, Master Nick, Mandalores, toi-même, Kerberos, Jeremiah, Jaina, Jidro, DVD 2.0, Dark Jedi et moi-même.
Mon Dieu, beaucoup de monde aujourd'hui, surprenant. Alors,
c'est la population totale.
Êtes-vous revenu de vacances, tout le monde, soudainement?
Qu'est-ce que t'en penses?
Donc, sur ce, je vais faire une petite introduction, de promo, d'introduction, et puis on revient avec les nouvelles diverses.
Cyclan.net, c'est... Les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Et voilà, qu'est-ce qui se passe côté nouvelles? J'en ai beaucoup, donc c'est parti. Selon boxofficemojo.com, Revenge of the Sith à 828 millions, que dis-je?
8.28.
Ouais, c'est ça, on a 828 millions et sur le point d'atteindre le 10e rang du box-office mondial de tous les temps international. Il est à 36 millions d'atteindre Finding Nemo, qui est présentement au 10e rang. Donc, allez, pendant qu'il est encore au cinéma, il faut ramasser 36 millions de plus pour atteindre le petit poisson.
Malheureusement, j'ai pas ce budget-là pour le petit poisson.
Donc, les gens sont en train de te souhaiter bonne fête dans le chat.
C'est ce que je remarque.
Ensuite, bonne fête, JJM, en passant, Sébastien.
Un quart de siècle et on compte.
Un quart de siècle, non, pas tout à fait. T'avais dit 24?
25.
OK, 25.
25 aujourd'hui.
Mon Dieu. Que ça va vite.
Ça passe vite en 6 mois.
Ensuite, Lucasfilm vient tout juste d'engager Joshua Katz comme vice-président du marketing sous l'aile de Jim Ward. Katz était à la tête de plusieurs campagnes de refonte de certains réseaux américains de télévision. Et Katz sera à la tête de toutes les initiatives de marketing, incluant les jeux vidéo Indiana Jones 4 et le 30e anniversaire de ILM et Star Wars en 2007. Katz a cependant confirmé que son embauche fait partie du changement de direction du cinéma vers la télévision pour Lucasfilm. Il mentionne « Lucasfilm doit arrêter d'être seulement un studio de cinéma, mais aussi un studio de télévision. » Ensuite, le magazine Variety indique que George Lucas s'est adressé à 4000 pros de l'informatique lors du congrès annuel SIGGRAPH Computer Graphics à Los Angeles hier. Lucas a confirmé que Lucasfilm travaille présentement sur deux séries télévisées de Star Wars, comme on vous a déjà mentionné. La première série Clone Wars en animation 3D sera conçue dans les bureaux de Lucas Animation à Singapour. Lucas a dit qu'il fera le tour de l'Asie pour trouver des talents et tenter de construire de l'animation 3D. Il dit « C'est aussi une façon pour moi de mettre le pied dans l'animé, ce que j'aime bien. » Pour la série avec acteurs, Lucas a dit « Nous allons tenter de faire quelque chose qui normalement coûterait 20-30 millions de dollars pour 1 million. » Il a indiqué qu'il avait réussi à faire la même chose avec la série Young Indiana Jones Chronicles. Lucas a aussi mentionné qu'il filmerait la série sur des caméras numériques de Sony que l'on peut maintenant trouver dans les magasins d'électronique. Ça fait cheap pas mal.
Ça fait cheap, mais ça veut dire que ça va être vraiment comme réel et prenant.
Ouais. Attention, caméra à l'épaule.
C'est ça.
Ensuite, la série télé live action, tout simplement avec acteurs, est repoussée jusqu'en 2008 puisque la production n'est pas prévue de débuter avant 2006-2007. Ceux qui ont écouté les dires de Sansweet en juillet dernier à Comic-Con à San Diego, Sansweet mentionnait que la série télé commencerait La série avec acteurs commencerait suivant le début de la série animée. Donc, la série animée commence en 2007. Donc, 2008 pour la série avec acteurs, malheureusement. Une année de plus à attendre.
Je pense que c'est pas la fin du monde.
Voilà. L'équipe qui a fait les animatiques de la trilogie, dirigée par Dan Grégoire, a créé sa propre compagnie nommée Halon Entertainment. Sur leur site web, vous pouvez voir une vidéo de la prévisualisation de Revenge of the Sith. La vidéo intitulée Star Wars Animatics, The Force Behind the Force, contient plusieurs séquences où l'on voit la comparaison entre la version animatique et la version finale qui se trouve dans le film. Vous pouvez aussi voir une vidéo sur la prévisualisation de l'épisode 2. Vous pouvez aller sur le site Halo Entertainment, halo-n-entertainment.com puis cliquez sur Real, L-E-E-R-E-E-L, désolé, Real comme les Real de de film. Ensuite, les membres du service Hyperespace peuvent maintenant voir des versions animatiques de certaines scènes de Revenge of the Sith, donc allez sur le site officiel, vous allez pouvoir voir tout ça. Aussi, la saga Star Wars est remplie de détails, le résultat d'artistes compétents et de gens qui ont créé des mondes, des personnages et accessoires pour la galaxie. Les livres Chronicles ont célébré ce détail dans les années 90 avec la sortie de l'énorme bouquin Star Wars Chronicles, un livre de 315 pages qui explore la trilogie classique avec des détails visuels exceptionnels. Les livres Chronicles sont de retour pour compléter la saga avec la sortie de Star Wars Chronicles The Prequels, écrit par Steve Sansweet et Pablo Hidalgo. Ce livre va montrer les différentes facettes dans la création de l'univers Star Wars. Aussi, vous pouvez aussi connaître les histoires de certains accessoires et de personnages connus que nous voyons dans la prélogie. Le livre est rempli de photographies de référence, de dessins concepts et de modèles de ILM. Star Wars Chronicles The Prequel sera disponible le 27 octobre prochain. Les joueurs de Star Wars Galaxies, il y en reste-t-il? Bien sûr qu'il y en reste. Peuvent maintenant encercler la date du 1er novembre sur leur calendrier, date de sortie de la prochaine expansion intitulée The Trials of Obi-Wan. Cette expansion va ajouter la nouvelle planète Mustafar et du contenu inspiré par Revenge of the Sith. Dans cette expansion, les joueurs vont faire des missions dirigées par l'esprit d'Obi-Wan. Les missions se déroulent sur les plages de Mustafar, où Obi-Wan a vaincu Anakin, ainsi que tout le reste de la planète. Parmi les trésors cachés, les joueurs pourront trouver un cristal rouge pour le sabre laser. Les joueurs qui remplissent toutes les directives d'Obi-Wan recevront aussi une bonne récompense. Trials of Obi-Wan contiendra plus de 50 nouvelles quêtes, dont l'exploration du croiseur de la République qui s'est écrasé. Je savais pas qu'il y avait un croiseur de la République qui s'était écrasé sur Mustafar. Ça doit être univers étendu. Même pas, c'est pas dans les romans, mais bon. Ensuite, on parle un peu de miniature. On va parler à Michael dans quelques instants. Donc, si Michael nous... J'ai quelques nouvelles à faire, mais c'est pour l'avertir s'il nous écoute avec le délai. Fait que Michael, prépare-toi, on va t'appeler bientôt. Donc, la nouvelle série de miniatures Universe Huge est disponible au magasin depuis vendredi dernier. La série contient 60 miniatures disponibles uniquement dans des boosters. Il n'y a pas d'ensemble de départ comme les trois séries précédentes, Rebel Storm, Clone Strike et Revenge of the Sith. Je reçois des petits messages un peu partout là. Que se passe-t-il? Deux secondes.
C'est la folie furieuse.
Ouais, c'est ça. Bon, je vais vous lister toutes les figurines disponibles et vous envoyer un lien avec la checklist de tous les...
Tu vas toutes les nommer, là?
Oui. Ça va aller assez vite. Dans la catégorie, t'appelles ça les factions. La faction République, t'as Clone Trooper on Bark Speeder, Elite Clone Trooper, Flash Speeder et Obi-Wan on Boga. Dans la faction séparatiste, tu as un Battle Droid, Darth Maul on Speeder, Hellfire Droid, Newt Gunnery, Super Battle Droid et Super Battle Droid Commander. Dans la faction Fringe, qui est la plus nombreuse, tu as Abyssin Black Sun Tug, Ackley, ASP-7, Bomar Monk, Dash Rendar, Dr. Evazan, Gunk Power Droid, Guri, Kaminoan Ascetics, Lando Calrissian Hero of Tanab, Lobot Nexu, Panda Bada, le Prince Shizor, un Rancor, un Reek, Rodian Black Sun Vigo, Shistavanen Pilot, Tusken Raider on Banta, Vornks, et un H1 Viper Droid. Dans la faction impériale, t'as un ATST, Baron Fell, Darkseid Marauder, Dark Trooper Phase 3, Darth Vader Jedi Hunter, Grand Admiral Thrawn, Night Sister Sitwitch, Nogri, Stormtrooper, Stormtrooper Commander. Ensuite, dans la faction rebelle, tu as Admiral Ackbar, Bit Rebel, Chewbacca Rebel Hero, Drezilian Commando, Han Solo Rebel Hero, Luke Skywalker on Tauntaun, Nyum Nyum, Princess Leia Rebel Hero, Wedge Antilles, Dans l'affection Nouvelle République, il y a Cal Katarn, Luke Skywalker Jedi Master, New Republic Commander, New Republic Trooper, Young Jedi Knights. Et finalement, dans la faction intéressante des Yuuzhan Vong, il y a Nomanor, War Master Tsavon La, Yuuzhan Vong Subalterne et Yuuzhan Vong Warrior. Et voilà la liste complète des 60 figurines que le nouveau set comprend. Ensuite, vous pouvez voir aussi, je vais vous envoyer un autre lien, qui est la galerie d'images sur le site de Wizard. Donc, vous allez avoir toutes les figurines en images sur ce lien-là. Bon, aussi ensuite... depuis quelque temps, Citlin informe les joueurs de Star Wars Miniatures du Québec de certains événements qui s'y déroulent. Cette fois, c'est au tour des joueurs français d'être renseignés. Voici un message qui a été laissé par Denis Havard, alias Gzou, concernant ses activités. Il a participé en grand nombre, donc, les informations pour Star Wars Miniatures en France. Stratagame.info vous invite à participer aux rencontres Star Wars Miniatures chaque mois à Epita Paris. Nous commençons les festivités le dimanche 28 août avec un post-release Universe Huge. Deux boosters pour 30€ vous seront remis afin de construire une armée de 150 à 200 points, sans tenir compte des factions. Les inscriptions se font sur stratgame.info. Une annonce pour l'événement a été créée. Vous n'avez qu'à suivre les liens pour accéder à cette page, à la page d'inscription. Pour les mois suivants, nous envisageons campagne, reconstitution de scènes de films, tournoi en ronde, suisse, draft, scellé. Enfin, cela dépend de vous, de vos envies. Plusieurs magasins tels que Park Age, Dream Wedge, Star Player et Troll de jeu sont prêts à nous soutenir dans ce projet. Nous devrions bientôt avoir un tournoi chaque semaine à Paris grâce à ces boutiques. Alors, sur ce, on va appeler Mickaël dès maintenant. Allez, il doit être programmé dans la liste.
Mm-hmm. Je l'avais trouvé tout à l'heure, d'ailleurs.
Et voilà. Est-ce qu'il va être en ligne? Allez, Mickaël, cours au téléphone.
Alors, voici Mickaël qui court au téléphone. Là, il vient de se planter sur ses huge qu'il a reçus en avance.
Évidemment.
Là, il se relève. Là, il continue à courir vers le téléphone. Puis il décroche le téléphone. Non, on manque de timing, ça a l'air.
Bon.
Oh!
Bonjour, vous avez appelé.
Il semble...
Mickaël, es-tu chez toi? Je me le demande bien. Bon, on va continuer avec les nouvelles. Et puis, tu contacteras pendant ce temps.
C'est ce que je suis déjà en train de faire.
Donc, je continue. Sauver la cantina! Et oui, notre ami Kerberos qui est dans... Je crois qu'il est dans le chat.
Oui.
Oui. Kerberos qui est dans le chat, vous envoyez un email concernant l'état de la cantine Star Wars en Tunisie. Donc, il se permet de nous contacter pour qu'on lui donne un coup de pouce sur un projet qu'il a depuis 2 ans. Ce projet a germé en 2003 lorsqu'il s'est rendu en Tunisie afin de trouver les différents sites de tournage ayant servi au film de la saga. Il a été émerveillé par tous ces lieux, mais aussi accablé de voir le délabrement gagné certains d'entre eux, et plus particulièrement le site de la cantine, la cantina. De retour en France, il a contacté divers organismes en Tunisie et en France, le consulat de France, le consulat de Tunisie, l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Agim, la municipalité de Agim et d'autres encore. Le but premier de cette démarche était d'obtenir l'annulation de la démolition du bâtiment qui était prévu dans le cadre de la modernisation de la ville. Ce but a été atteint. La municipalité a été sensibilisée par l'importance culturelle que représente cet édifice et l'a épargné de la destruction. Maintenant, le but à atteindre est la réhabilitation du site et sa mise en valeur, qui permettrait à la fois à la ville de posséder une recherche culturelle supplémentaire et aux fans de Star Wars ayant fait le voyage de pouvoir photographier autre chose qu'un bâtiment délabré. Malheureusement, pour l'instant, la municipalité de la ville de Agim n'est pas suffisamment sensibilisée à l'importance de la construction, que ce soit au niveau du patrimoine culturel ou de l'attrait touristique, et c'est pour cela qu'une pétition en ligne a été créée afin de démontrer que ce combat ne l'engage pas uniquement, mais que ce sont bien des centaines de personnes qui sont mobilisées pour la réhabilitation de ce site. Donc, ceux qui sont intéressés à aller signer la pétition, je crois que Kerberos a déjà mis le lien plusieurs fois dans le chat. Je vais le remettre encore. Donc, on vous suggère d'aller là. Toi, Sébastien, tes parents ont été en Tunisie, donc tu as pu voir des photos de ça. Moi, je prévois éventuellement aller en Tunisie pour visiter un peu, particulièrement, peut-être pas seulement ça, mais entre autres, aller voir ça. Et puis, j'espère que la cantine va être en très bon état, n'est-ce pas? Avoir le budget, je suis certain que tu prendrais ta propre argent pour aller rénover la cantine, aller mettre du plâtre et tout.
Je nagerais jusqu'à là-bas s'il faut. Je tiens à mentionner d'ailleurs que Kerberos nous disait un peu plus tôt dans le chat que Steve Sansweet lui a répondu à des emails qu'il lui avait envoyés, mm-hmm. puis il a dit qu'il était pour voir, à regarder dans le fameux problème d'ici les quelques prochaines semaines. Donc,
ils vont sûrement en parler sur le site officiel, donc.
Avec un peu de chance, on l'espère.
De toute façon, Lucas a assez d'argent qu'il pourrait s'en occuper facilement.
Et il pourrait racheter la propriété, puis le tourner en attrait touristique et ramasser de l'argent.
Encore plus.
Encore plus. Et voilà. Alors, et voilà. On réessaye Michael.
Et voilà. Où était-il finalement?
Qui apparemment aurait un problème de sonnerie avec son téléphone.
D'accord.
Alors, Michael entend pas le téléphone sonner. Et là, Michael entend le téléphone sonner. Alors, il se lève, il court vers le téléphone.
Oui, allô?
Bonjour, Michael.
Bonjour, bonjour.
Finalement, tu as entendu le téléphone.
Ouais, ben, problème de sonnerie avec le téléphone en bas. Puis même là, il n'a pas marché, donc en tout cas, c'est arrangé.
Ça s'appelle volume.
Oui.
Il y a un petit piton sur le côté.
Merci de m'instruire.
Donc, tu as pu te... Évidemment, Michael s'occupe des miniatures sur cetelan.net. Mm-hmm. Tu t'es procuré peut-être certaines miniatures, tu les vas les recevoir bientôt, mais tu peux nous en parler quand même?
Oui, oui, je peux vous en parler parce qu'en fait, toutes les stats sont sorties là, sur Internet.
Ou, d'accord.
Je te dirais même que c'était sorti mardi ou mercredi dernier, mais en fait, la série sortait vendredi.
Alors, en quoi consiste la série? Huge, ça veut dire qu'il y a des grosses pièces, j'imagine?
Oui, c'est ça. Normalement, une figurine, on dit une base de 1 par 1, c'est la base normale. Mm-hmm. Il y a des figurines larges qui font une base de 2 par 2, mm-hmm. et huge font 3 par 3.
D'accord, donc c'est immense.
Oui, à peu près, oui. C'est pas mal immense. Mais tu sais, il y a des figurines qui, oui, sont vraiment grosses, je pense au Rancor puis le Hellfire Droid, mm-hmm. mais tu as un Exu qui est huge, mais qui est pas si gros que ça.
D'accord.
Mais c'est parce qu'il est...
Il est très rapide puis il prend beaucoup de place, non?
C'est ça, tu sais, il est comme en détente, comme s'il part pour courir, donc la figurine est assez large pour faire une base de 3 par 3.
D'accord.
C'est quand même plus volumineux qu'une figurine normale, mettons qu'un clone trooper, là.
D'accord. On a mentionné qu'il y avait 60 figurines, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de figurines de l'univers étendu.
Oui, c'est ça. Ben, jusqu'à maintenant, c'était la série qui a plus de figurines de l'univers étendu. Chacune des trois premières séries avait quelques figurines de l'univers étendu. Mais celle-là, ben, de toute façon, c'est le nom aussi de la série, là, mm-hmm. Universe Huge. Là.
Ok, d'accord, ça dit les deux nouveautés, dans le fond, dans le titre. Là, Sébastien va montrer rapidement la webcam la différence entre une figurine normale 1 par 1 mm-hmm. et puis une qui 2 par 2. Puis les Huge sont 4 par 4, donc 3 par 3. Donc on peut imaginer.
Que ça serait l'équivalent du verre qui va apparaître dans la webcam.
Un petit peu moins, je dirais. Là. Peut-être,
ben, la base va être la même, la taille du verre, mais en tant que telle, la figurine risque d'être.
Deux fois la hauteur, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi j'imagine qu'il y a des nouvelles statistiques qui viennent avec. Avec ces nouvelles figurines-là, il y en a-tu quelques figurines qui ont des habiletés spéciales?
Ben oui. Ben, premièrement, je voulais te parler. Il y a quelques figurines qu'on retrouve dans cette série-là qui sont déjà apparues dans des séries auparavant.
OK. Telles que?
Il y a Obi-Wan, il y a Darth Maul, Lando, Darth mm-hmm. Vader, Chewbacca, Han Solo, Leia, puis Luke Skywalker.
D'accord.
La caractéristique de ces figurines-là en série-là, c'est que c'est la version la plus puissante du personnage jusqu'à maintenant.
OK, parce qu'ils ont grandi depuis les films, donc...
Ben, c'est ça, ou bien ils ont voulu, en tout cas. C'est c'était comme le but là, des gars qui ont fait la série. Là.
D'accord.
Donc, ben, le Obi-Wan, personnellement, je le trouve pas super plus puissant comparativement à celui de la dernière série, Revenge of the Sith. Là.
Mais l'Obi-Wan doit être rendu en fantôme, non?
Non, non, c'est Obi-Wan en beau gars.
Ok, donc, okay d'accord.
Pas sur le reptile, sur le vieux tapant.
Ok.
Mais il y a juste un petit peu plus de points de vie, puis il a perdu son lightsaber assault, donc je trouve que c'est... Ça se compare pas, là. C'était mieux avec le lightsaber assault.
Donc, c'est quoi
le... Darth Maul Speeder, je suis pas certain non plus, parce que il y a plus le set-rate, il y a plus le triple attack, je trouve que c'était pas mal plus puissant. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment bon. Le Lando, il apporte un bon soutien. Puis, on est surpris de voir qu'il est dans la section Fringe, mais en fait, c'est Lando Hero of Tanab. Donc, il était pas encore, il faisait pas encore partie de la rébellion à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans Fringe, qui
d'accord.
Les indépendants. On peut les jouer avec n'importe quelle autre faction.
C'est ça. Mais la bataille de Tanab, c'est entre épisode 5 et 6, je crois. Ça. Oui.
Y a le Darth Vader qui est Jedi Hunter. Hein, il est vraiment super puissant. C'est pour ça qu'il coûte 75 aussi à jouer. Là.
Mm-hmm.
Jusqu'à maintenant, on a vu bon les nouvelles figurines. Il y a à peu près le Luke Skywalker ou le Tsavong Lok qui serait capable de tuer. Là, mais il est vraiment, mais vraiment puissant.
Et comme habilité spéciale, qu'est-ce qu'on peut retrouver? J'imagine que les Yuuzhan'vong ont des habilités spéciales. Certains rebelles ou impériaux ont des habilités spéciales qu'on n'a pas vues encore dans les séries précédentes.
Non, les Yuuzhan'vong ont Force Immunity.
Donc, d'accord.
Tout personnage qui peut utiliser des points de force là, peut pas utiliser un pouvoir de la force sur eux. Utiliser des points de force pour rerouler une attaque qui est manquée. Ou répondre à une attaque de ce personnage-là avec un point de force ou une habilité, là, quelque chose. Donc, c'est impossible d'utiliser la force contre un Yuuzhan'vong.
C'est intéressant.
Ben oui, c'est intéressant. Ils ont aussi une habilité qui s'appelle Vondun Crab Armor.
Mm-hmm.
Donc, en fait, si tu réussis, celui de Tsavong-la, c'est 6. Le Yuuzhan'vong Subaltern, c'est 11. Et le Warrior, c'est 16. Donc, en fait, le chiffre indique quel chiffre tu dois rouler avec ton dé pour enlever 10 points de damage pris lors d'une attaque là, d'un ennemi.
OK.
Donc, pour Tsavong-la, ça lui prend un 6, il y a déjà 200 points de vie, un bonus d'attaque de plus 15. Il est terriblement puissant. Il a juste son damage de 10, mais il a quand même une triple attaque. Donc, en fait, lui, comme Darth Vader, serait capable de le tuer, là.
J'ai entendu quelques habilités spéciales telles que Amiral Akbar qui a...
It's a trap.
It's a trap. En quoi ça consiste, entre autres?
Akbar, t'as un petit peu que j'allais le voir, c'est un particulier. J'ai les stats, mais j'ai pas appris par cœur.
Mm-hmm.
OK, donc ça dit... Normalement, c'est des personnages qui ont l'habilité stealth, donc qui peuvent pas être prises comme cible quand ils ont un cover par un ennemi à plus de 6 cases. Là.
Mm-hmm.
Donc, lui, avec cette habilité-là, s'il est à 6 cases ou moins de ce personnage-là, il est capable de détecter stealth. Ils sont plus en stealth. Donc, c'est utile si tu veux attaquer un personnage en particulier et que ton adversaire le place à une position comme ça que tu peux pas le tirer. Puis, des fois, c'est souvent un personnage clé dans son équipe.
Il y a aussi Newt Gunray qui est plutôt une figurine négative.
Oui, ben ça dépend comment tu la joues, là. Mais il y a un commander effet négatif c'est qui amène moins 2 d'attaque à ses alliés. Il en donne seulement speed 4. Donc en fait, un personnage normal a speed 6. Donc ça veut dire qu'il peut bouger de 6 et faire une attaque ou bouger de 12. Mais en ayant speed 4, il peut juste bouger de 4, faire une attaque ou bouger de 8. Sauf que il y a Separatist Reinforcement 20. Donc ça, c'est au début du match, là. Quand tu vois l'équipe de ton adversaire, tu peux ajouter 20 points
de figurines
séparatistes dans ton squad. Et Separatist Reserve 20. Donc si tu roules un 1 à l'initiative, tu peux ajouter 20 points de séparatistes. Donc, ça, c'est pas pire parce que les séparatistes, ils ont beaucoup de droïdes.
Mm-hmm.
Donc, tu peux jouer Newt Gunray avec des droïdes. Puis, le Commander Effect ne s'applique pas sur les droïdes, à moins que le Commander Effect le dise, mais dans le cas-là, ça s'applique pas.
D'accord.
Donc, il est utile pour ses séparatistes Reinforcement puis Reserve. Mais il y a quand même un cost de 30. Donc, en fait, il revient à 10 avec le renforcement de 20.
Mm-hmm.
Mais, c'est pas super. Ça dépend. C'est une stratégie qui va bien avec. C'est un personnage qui va être bon, là. Et c'est aussi une question de chance. pour que tu roules un sur l'initiative puis avoir le Separatist Reserve Zone. Là.
Je pense que l'habilité que j'ai trouvée la plus étrange, c'est celui du Dr. Evazan.
Ouais, ben ça suit un petit peu son background, si on veut, là. Qui en fait, ça s'appelle bon, Missidal Surgery. Donc ça remplace son tour, faut qu'il soit adjacent à un personnage.
Mm-hmm.
Puis que, en fait, c'est 10 points de dégâts sur un personnage non droïde. Mais ça peut être aussi comme un. Enlever un 10 points de dégâts sur un allié, mais il faut qu'il fasse un jet d'un. Donc c'est un peu comme un heal, mais il faut faire des dégâts avec ça aussi.
Donc c'est
un peu un dégât qui est assuré, c'est adjacent, parce que normalement il y a juste un bonus d'attaque de plus 3 pour 10 de dégâts. Donc c'est plus dur à atteindre. Donc c'est pas pire. Tu peux jouer avec Panda Bonda, puis dans ce cas-là il coûte un de moins pour jouer. Là.
Donc, c'était une chirurgie homicidaire.
Ouais, c'est ça.
Donc, il sort ses scalpels, puis il dissèque les personnes à côté de lui.
C'est ça, ouais. J'avais entendu dire qu'il y avait qu'il avait été sorti dans les jeux de cartes faits par Wizards of the Coast, là.
OK.
Où c'est Decipher, là, puis il y avait c'était incroyable ce qu'il pouvait faire aux autres. On pensait qu'il serait plus puissant, mais il est quand même pas si peu, mais je pensais qu'il ferait plus de dégâts que ça, mais... Tout seulement 10 à jouer, donc c'est pas pire pour ça.
Puis pour ce qui est des huge figurines comme le Rancor, le Banta, etc., c'est quoi leur habilité spéciale ou c'est quoi l'utilité d'en avoir dans tes troupes?
Ben, j'ai regardé, puis je pense que ma préférée dans ça, c'est le Banta, mais pour une raison particulière. C'est que, comme il y a une base de 3x3, ça veut dire que tu le mets en avant là, de ton team, puis comme il y a 90 points de vie, là, le personnage va être obligé de tirer sur le Banta en premier, à moins qu'il y ait Accurate Shot, mais là, il n'y a pas beaucoup qui ont ça. Là.
Fait que ça va bloquer tous les autres en arrière.
Ben, c'est ça, c'est que ça donne une plus grande durée de vie à tes personnages derrière, puis ton Banta avec le Toscan, il est capable de faire beaucoup de damage en un tour, si tu veux.
Okay.
Donc, il sert aussi à faire du damage, mais aussi c'est un bon bouclier, si tu veux. Là. Je l'aime beaucoup pour ça. Le Rancor est assez puissant aussi, triple attaque, puis...
Il fait juste manger les adversaires, c'est quoi?
Hein?
Est-ce qu'il fait simplement manger les adversaires?
Non. Ça me fait penser, il y avait un poster qui était sorti pour promouvoir la série, puis tu voyais le Rancor qui était en train de manger d'autres figurines, puis il les avait toutes détruites.
OK.
C'est assez bien. Non, ben il les mange pas, mais il les tue. La seule chose négative sur le Rancor, c'est que Savage, puis... Il est obligé de terminer son tour adjacent à un personnage ennemi s'il peut, ou ben non.
OK.
Bénéficier d'un Commander Effect, là. Mais ça encore là, t'as des personnages qui peuvent être joués avec lui pour contrer cet effet-là. Mais c'est quand même un personnage très intéressant. Mais encore là, tu sais, il y a une base de 3, donc il est plus facilement. Il est plus facile à prendre pour cible. Puis encore là, ben il devient la. C'est sûr que si tu joues un Rancor, là, à moins que tu aies un autre gros personnage super puissant comme, je sais pas, Mace Windu, ben ton Rancor, il va être pris pour cible au début parce qu'il peut faire beaucoup de damage.
OK.
Excellent. Oui, Sébastien?
Ça aurait été drôle qu'ils mettent dans le Rancor un espèce de petit trou dans la bouche, fait que tu peux mettre les figurines là, puis tu roules son dos après, à la fin de la game, pour récupérer tes figurines qu'il a bouffées pendant.
C'est ça. Mais il y a donc un autre huge qui est super intéressant, là, c'est le X-1 Viper Droid.
Mm-hmm.
Qui
vient de Dark Forces.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un droïde qui détruit Mon Calamari ou quelque chose comme
ça. Ça se peut, ouais.
Ouais, je suis pas trop au courant, j'ai pas lu ça. Lui, il a double attaque puis il fait 30 points de damage par tour.
Aïe aïe.
Puis il y a un Molecular Shielding, donc si t'es pas adjacent à lui, il prend aucun damage.
Wow.
À moins que... Puis en fait, le damage, si mettons tu tires et tu souhaites faire 20 damage sur lui, ben, le damage revient sur ton personnage, à moins que tu réussisses un jet de 11 avec ton dé. Donc, tu sais, en fait, il oblige quasiment à ce que tu t'approches de lui, et pendant ce temps-là, lui, il peut tirer tout le long que tu t'en viens.
Hein. OK, il faut que tu l'attaques en mêlée.
Ouais, c'est ça, t'es vraiment obligé d'être adjacent à lui.
OK.
Tu peux avoir un blaster, puis être adjacent, puis ça va être correct, là.
Mm-hmm.
Surtout que tu n'es pas adjacent à lui, puis tu le tires, tu peux prendre les damage facilement.
D'accord. Et puis, comment penses-tu que la série va avoir de succès par rapport aux précédentes?
Je pense qu'elle va être très intéressante. Beaucoup de succès parce que Elle amène beaucoup de profondeur, premièrement, à Rebel Storm, qui est un peu disproportionnée après les deux, la sortie des deux autres séries, qui était beaucoup plus forte parce que tu avais beaucoup de Jedi, beaucoup de personnages qui avaient beaucoup plus de damage et des meilleures statistiques. Donc, je dis pas encore que Rebel Storm va pouvoir être mixé avec les deux autres séries, mais ça t'apporte plus de profondeur à la série, puis tu vois, je veux dire, tu n'auras pas juste une série, mais pour jouer ces personnages-là, mais maintenant, tu peux jouer avec deux. C'est super intéressant, je trouve.
Donc, merci, Michael. Juste avant de te quitter, on va parler peut-être un petit peu plus dans la... Ça serait plus dans la chronique communauté, mais tu essaies de planifier une sortie camping.
Oui,
donc, tu peux en parler peut-être un petit peu?
Juste avant ça, on va mentionner que c'est samedi prochain, de midi.
Pour la sortie de la série qui était... C'était supposé d'être hier, mais ça a été changé par Wizard of the Coast, donc c'est moi qui anime ça au Valet de Cœur demain.
D'accord, un tournoi.
Oui.
Excellent. Et puis par rapport au camping?
Le camping, mais je reviens justement d'hier d'un canot camping avec des amis. Je suis parti vendredi, je suis revenu samedi, puis je me suis dit hier soir, je parlais avec toi, Danny, je me suis dit, mais ça serait vraiment cool qu'on ferait ça ensemble, avec les gens de cette là, mais les autres personnes qui veulent venir aussi, là, c'est pas...
Exclusif à site, là?
C'est ça, on accepte tout le monde, on est bien... amical avec tout le monde. Donc, ça serait vraiment plaisant, je pense, à préparer ça. J'ai laissé la proposition dans le forum. Puis, j'invite tout le monde qui sont intéressés par ça. On pourrait avoir un bon petit 2 jours intéressant en camping hors de la société. Sébastien, ça veut dire que si tu viens, tu n'amènes pas ton laptop.
Il est que ça va être dur, ça.
Ben là, par contre.
On est à la ronde la semaine dernière, donc on a une progression ici.
C'est vrai.
Tranquillement, pas vite.
Donc, non, faire une auberge s'éclate dans le bois.
Je vais amener le kayak à ton frère.
Avec quel véhicule?
À pied.
Ben, merci beaucoup, Michael.
Ça fait plaisir, les gars.
À la prochaine.
À la prochaine.
Bye.
Bye bye.
Alors, c'était Michael et toutes les informations pour les miniatures, vous pouvez aller voir sur siteclan.net et faire un filtre sur miniature pour avoir uniquement les informations miniatures si vous le voulez. La série est disponible depuis vendredi. Donc, ensuite, nous allons chronique collection.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Alors, bienvenue à cette chronique collection du 21 août 2005. Alors, je vais vous diriger sur le plus récent communiqué de Legends. Qui a été posté sur siteclan.net, que vous puissiez voir toutes les belles images, des belles petites choses qu'on va parler, en tout cas une grosse partie. Principalement dans le dernier mois, qu'est-ce qui a été annoncé, qui est sorti? Eh bien, il y a évidemment la troisième série de Force Battlers avec Han qui est déguisé en Stormtrooper avec le casque que je trouve qui fait pas pantoute sur sa tête, mais bon, c'est des... Ça fait partie des Force Battlers d'être un peu caricatural puis d'avoir
des grosses têtes.
D'avoir des grosses têtes.
De se prendre pour d'autres.
Mais Han a déjà une grosse tête, donc ça aide pas. Excuse-moi. Il y a Luke avec une espèce de simili-skiff qui sort aussi avec quatre petits missiles là, qui vont pouvoir se faire tirer. Et le Bat Vader.
Le Bat Vader.
Oui, oui, un Darth Vader avec des ailes de chauve-souris dans le dos qui s'étendent et qui vont lui permettre de voler. On sait pas trop. Là. C'est Darth Vader rencontre Batman. Alors, Darth Vader habillé par Wayne Enterprise, en fait. Et voilà. Alors ensuite, il y a la troisième vague de Unleash qui s'en vient. Il y a Chewbacca, les clones rouges de l'épisode 3, de Mustafa, et les Han Solo en Stormtrooper, qui vont sortir dans cette avant-dernière, si je me trompe pas, vague de Unleash. Alors, il y a aussi les paquets Évolution, Sith et Clone. Alors, Anakin épisode 2, Anakin épisode 3 et Darth Vader font un paquet. Clone de l'épisode 2, Clone Commander de l'épisode 3 et les Sand Troopers de la trilogie originale font un autre paquet. Ensuite, pour les Sith, il y a Darth Maul, Count Dooku et Emperor Palpatine qui sont ensemble dans un beau petit paquet. pour ceux qui n'ont pas déjà ces figurines-là. Oui, c'est simplement des rééditions qui mettent dans des paquets qui appellent quelque chose de nouveau, mais c'est pas grave, ça fait des belles petites boîtes à racheter sur vos étagères. Ensuite, il y a plusieurs préventes qui sont présentement disponibles. Ce qui s'en vient dans les prochains mois, ben il y a le Bounty Hunter 6-pack qu'on a eu... qu'on a entendu parler à Comic-Con. Ensuite, il y a les Astromech droïdes que ça fait plusieurs années qu'on attend, qui vont être en pré-vente. C'est deux paquets de 5 Astromech qui sont en vente pour le mois de décembre. Du côté de Gentle Giant, eh bien, il y a une statuette de Han Solo avec son fusil derrière la tête à la petite position cool et relax. il y a évidemment la collection Clone Wars avec... General Grievous, c'est Anakin si je me trompe pas, et Luminara Unduli puis Barry Sophie ensemble. Et aussi il y a Vader, Yoda et un speeder bike avec le scout dessus. Donc toutes des très belles pièces qui vont coûter un très beau petit paquet d'argent. Et du côté Kotobukiya, eh bien il y a Luke Storm qui s'en vient, il y a Darth Vader et le deuxième Clone Trooper. Alors c'est le Clone Trooper des 501st. Qui va être bientôt sorti. Et voilà. Ouais, c'est ce qui conclut en gros la chronique collection de ce mois d'août, de ce mois d'août 2005. Alors, la chronique événement, on commence par une bien triste nouvelle. Mardi dernier, Katie Johnson, fille de Albin Johnson, est décédée à 17h20, juste quelque peu avant notre édition anglaise de l'émission. Malheureusement, la nouvelle a été reportée au lendemain.
Diffusée plus tard, oui.
On ne l'a pas su à temps. La petite Katie est décédée d'un cancer à l'arrière du cerveau qui était inopérable à l'âge de 7 ans. Alors, si vous désirez aider la famille, on vous encourage fortement à passer sur le site www.4katie.org ou simplement quand vous allez sur le site de Star Wars en direct, la page principale présentement, ouais. qui vous envoie directement sur le C'est site ça. De
Cliquez Nation. Sur l'image de Katie.
Et voilà.
Vous pouvez aussi entendre notre hommage en cliquant sur l'enregistrement qui est disponible sur cette page d'accueil même, maintenant.
Et voilà. Alors, maintenant, d'un côté un peu plus gay, on va mentionner que la semaine dernière, Citlan.net était à la ronde et que, comme à chaque année, on a eu immensément de plaisir. Yes. Cette année, c'est extrêmement spécial. Il y a eu plusieurs événements qui nous ont bien fait rigoler tout au long de la journée.
Et si ça n'aurait pas été de mon indigestion, tout aurait été bien. J'ai pas été malade, mais c'est mon dîner qui n'a pas passé.
Ça aurait été plus agréable dans ton cas.
Exactement.
Puis, c'est ça, alors, juste mentionner que notre cher ami Michael, à qui l'on parlait justement, a failli se faire arrêter par la sécurité et nous faire jeter tous dehors. Car il portait un bandeau de tape danger sur le front et qu'il a jeté un petit paquet de M&M du haut de la grande roue qui s'est ramassé dans le lac des dauphins. Donc, on s'excuse aux gens de la ronde. C'était anodin et très candide. Comme.
Et sans alcool.
Et absolument sans aucun alcool. Ensuite, je tiens à mentionner que la semaine prochaine, Star Wars en direct fera une apparition à la Canadian National Exposition, qui se trouve à être le congrès science-fiction annuel de Toronto, qui est à but profitable principalement. Alors, Kenny Baker et Matthew Wood, qui est l'acteur qui a fait la voix de General Grievous, sont présents là-bas. Donc, on va essayer de vous ramener des petites entrevues pour le mois prochain. Ensuite, les 3 et 4 septembre prochains, la braderie de Lille, Lille en Provence, je crois bien, aura lieu. C'est un petit festival. Pour avoir plus de détails et pour vous joindre aux gens de Citlan qui vont aller faire un tour là-bas, vous pouvez aller sur les forums de Citlan.net dans la section événements. On va revenir rapidement sur le tournoi Huge qui aura lieu samedi prochain à partir de 1h, mais c'est midi et demi, je crois, 1h, au Valet de Cœur sur la rue Saint-Denis ici à Montréal. Et pour participer à cet événement, mais vous avez simplement à vous présenter au Valet de cœur. Et voilà. Ensuite, évidemment, ceux qui seraient intéressés à faire du canot camping, à me voir trimballer un espèce de gros kayak. Tout le long d'une fin de semaine, ben vous pouvez toujours le faire en allant justement dans le topic intitulé canot camping de Citlan au Québec dans les forums événements de citlan.net. Ensuite, on tient à vous parler de l'auberge Citlan qui s'est extrêmement bien déroulée tout au long de l'été. Il y a même eu un blog qui a été créé, ça a fait la fureur du forum Citlan, presque comme le love story de Citlan, si vous voulez.
Même que c'est déjà prévu pour l'année prochaine.
Même qu'ils sont déjà en train de prévoir leur coup pour l'an prochain. Donc, pour mieux nous en parler, on va appeler Chancelier THX 2002 des forums de Citlan, qui se trouve à être THX 2002 dans le chat présentement.
Espérons que le numéro est bien composé, vu que c'est un appel outre-mer. Alors, testons voir si tout fonctionne. Est-ce que ça sonne? C'est un portable? Eh oui.
D'accord.
Oui.
Bonjour Mathieu.
Salut, ça va?
Oui, ça va. Donc, tu étais l'hôte de l'auberge Citlan.
Comment?
Tu étais l'hôte de l'auberge Citlan.
Je suis prêt et le temps que vous voulez.
Non, mais on est en onde présentement. Il y a un décalage avec... la radio, donc fais juste baisser ton volume.
C'est bon.
Donc, tu étais la personne qui accueillait tous les autres membres de ce clan pour l'auberge.
C'est ça.
Et puis, peux-tu nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la semaine?
Ça a été très riche en émotions. On a beaucoup partagé. C'était l'occasion vraiment de voir tout le monde. On s'est vraiment fait des bons liens d'amitié, on n'arrête pas de traîner ensemble sur MSN maintenant d'ailleurs. C'est une petite famille qui s'est créée, puis j'espère qu'on renouvellera ça l'année prochaine. Donc voilà quoi.
Et c'était où exactement?
Alors c'était sur la côte bretonne, dans le bout de la France quoi. Et on était à 100 mètres de la plage, donc on a pu aller se baigner nuit et jour. Même la nuit, ouais.
Voilà. Quelques bains de minuit.
Il y avait un Russe parmi nous, Alexis, et il a même pas osé se baigner dans une eau à 18 degrés. Je trouvais ça dommage, mais bon, c'est pas grave.
Et puis, vous prévoyez déjà pour l'an prochain, est-ce qu'il y a des dates ou des lieux de prévu?
Là, on peut pas y couper. Donc, tous ceux qui sont venus cette année sont cordialement invités à revenir. Et puis, tous ceux qui veulent venir autrement seront chaleureusement accueillis. Et voilà quoi.
Est-ce que ce sera au même endroit?
A priori, ouais, ça devrait. Notre capacité est à 15, donc si on est plus de 15, il va falloir carrément penser à changer de lieu et prendre une auberge encore plus grande. mais j'espère que ça va se développer. On fera peut-être des conventions dans 10 ans là-bas, qui sait.
Tiens, ça serait une possibilité. Je sais que Sébastien m'avait parlé qu'il aimerait bien y aller à cette auberge l'an prochain.
Mais tout le monde est bienvenu hein, en tout cas, ça nous fera bien plaisir. Et puis gros copain, notre mascotte attend tous les nouveaux venus.
Ouais, c'est le cousin français de notre Jawa Bob.
Oui, j'ai appris que vous aussi vous aviez une petite mascotte, ça fait bien plaisir. On pourra leur faire t'envoyer des courriers entre eux et tout, pas de problème.
Excellent. Mais merci beaucoup Mathieu.
Mais de rien.
On se reparle plus tard.
Ciao.
Bye. Et voilà.
Alors, c'était THX qui nous parlait brièvement de l'auberge Citlan qui s'est très bien déroulé.
Vous pouvez aller sur les forums, c'est ça, vous pouvez aller sur le forum Citlan, il y a des liens, il y a déjà un lien pour l'année prochaine, et puis surveillez les signatures de je pense principalement de THX ici, de Mathieu, qui a un lien vers le blog, donc vous pouvez voir toutes les photos et les délires qu'ils ont eu au cours de cette semaine-là.
De la petite famille Citlan.
Et voilà.
Et parlant d'Europe, eh bien, mesdames et messieurs, oui, le grand lunatique lui-même se prépare présentement à partir en Europe. Alors, les Danny's Angels vont être très heureuses. On les entend déjà ici, là, de l'outre-mer. Qui sont toutes heureuses. De pouvoir enfin rencontrer l'idole de leur vie.
le fondateur de leur petite communauté, on pourrait dire, l'instigateur. Enfin, je serai à Paris du 9 au 20 septembre prochain. Il y a une rencontre de prévue, principalement avec les fans de cette clan, le samedi 10 septembre. Présentement, le lieu de rencontre est au parc des Buttes de Chaumont. Et puis, c'est prévu être un pique-nique avec où est-ce que chacun apporte sa nourriture. Je sais qu'il y en a certains qui vont apporter de la nourriture pour d'autres, etc. Il s'agit de préciser. Allez voir dans le topic Lunatique à Paris sur le forum Citlan et toutes les informations sont là. Il n'y a pas encore d'heure de rencontre de prévu ou de lieu exact de rencontre. Il va probablement y avoir des activités suite au pique-nique aussi qui ne sont pas encore prévues. Donc, on va voir d'ici les prochaines semaines. Si vous êtes intéressé, surveillez le topic sur citlan.net et puis peut-être vous allez pouvoir me serrer la pince en direct.
Alors les choses qui sont pas prévues après le pique-nique, c'est un détour par l'auberge Citlan, un bain de minuit.
À Paris, c'est un petit peu plus difficile. Je me baignerai pas dans la Seine.
Ah, homme de peu de foi. N'as-tu point confiance en cette eau si délicate?
Je sais pas si Paris-Plage est terminé.
Encore là, je suis pas sûr que j'irai m'y baigner.
Alors, c'est cela. Donc, du 9 au 20 septembre. C'est le 10, la rencontre, le samedi 10. Et peut-être qu'on va se croiser par hasard durant cette semaine-là, ces 12 jours-là.
Alors,
11 jours.
J'ai presque envie de te déléguer Bob pour qu'il puisse rencontrer son cousin, gros copain.
Je pourrais le traîner.
Je sais pas si je te fais assez confiance.
Donc, sur ce, notre partie de l'émission consacrée aux nouvelles est terminée. Donc,
je vais excuse-moi 30 secondes, rementionner que le Pas-de-Calais, que je me suis trompé tout à l'heure, c'est... Lille, en fait, c'est au Pas-de-Calais, dans le nord de la France. En Provence, c'est dans le nord de la France.
Lille de...
Pour la braderie de Lille.
Ah, d'accord.
Le petit événement qui s'en vient au mois de septembre.
Donc, on va aller écouter The Arcade Fire, un petit groupe montréalais, avec la chanson Lies Rebellion. On va revenir après la pause avec le sujet principal, comparer les fandoms. On vous invite à aller dans le forum, laisser vos commentaires. On va tout lire ça et donner nos propres commentaires après la pause et lister les gens dans le chat. À tantôt. We'll be right back.
Toy Palace, c'est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Who's the 501st?
Hi, this is Jay Thompson, producer and director of Heart of an Empire, the documentary. And you're listening to Star Wars in Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Qui est dans le... Ouais, vas-y, petite nouvelle de dernière minute.
Alors, il y a David Guivan qui nous a mentionné que le 19 novembre, à partir du 19 novembre, il va y avoir une exposition Star Wars à Singapour, là où justement George Lucas a installé ses nouveaux quartiers généraux. Alors, l'événement qui sert à promouvoir Star Wars épisode 3 ainsi que le lancement du DVD, apparemment, les responsables de l'événement seraient intéressés à diffuser George Lucas Legend of the Force et Prime of the Jedi, son nouveau film, sur grand écran en même temps que le Making of Episode 3. Alors, heureusement, ces films sont en anglais. Les grosses chances sont donc qu'il y aille. On vous tient au courant des dénouements de
un
cette histoire.
Un très gros contraste entre le Making of de Revenge of the Sith et un fan film, n'est-ce pas? Donc, tu peux nous lister les gens dans le chat, ceux qui sont toujours là.
Alors, dans le chat, il y a Abner, Bob Amers, qui est de Québec. Salut, Bob Amers. Dao, c'est moi-même. Dark Jedi, Delete, DV2.0, Jaina, Lunatic, Mandalore, Spitzbury, Pterodon, Raven, Silka et THX2002. Et il y a Jaina qui se demande pourquoi Bob dans le chat, le nom de notre mascotte. Ben,
je ne sais même pas.
Ça remonte à mon époque du cégep. Et quand j'étais
quoi, tu t'appelais Robert dans le temps?
Jeune et délinquant, et moi, puis ben, un de mes amis appelait tout le monde Bob, donc les gens commençaient à l'appeler Bob, puis moi aussi je l'ai appelé Bob, puis lui m'appelait Bob, fait qu'on était Bob et Bob. Donc le surnom a comme.
Bob le Jawa.
A comme collé, puis là, finalement il y a eu Bob le Jawa, puis c'est devenu la mascotte. Donc.
Et voilà.
En courte.
À quelle année est devenue la mascotte de cette là?
En courte histoire, c'est comme ça que Bob est né. Bob est devenu la mascotte de Citlan, ben, je pense, dans sa deuxième année. Là.
Quand tu as commencé à le traîner.
Plus partout. Là.
OK. Donc, sujet principal aujourd'hui, comparer les fandoms. Alors, je vais aller regarder rapidement le chat. Comparer les fandoms. Est-ce que... C'est quoi les différences entre le fandom de Star Wars et ceux... tels que Buffy, Lord of the Rings, Stargate, Harry Potter, Star Trek, etc., etc. On a-tu manqué?
Pas vraiment.
Star Trek,
évidemment, qui se rajoute à ça. Le fandom, entre guillemets, animé, là, qu'on peut rajouter aussi à ça.
Ben, c'est ceux qui se rapprochent le plus du même style que du fandom Star Wars. Comment est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce que les fans de ces différents... fandoms sont traités de la même façon? Est-ce qu'il y a une différence entre les fandoms du fantastique et de la sci-fi? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre les fandoms consacrés sur une série qui est sur un média et une autre qui est sur, en littérature seulement, etc., etc.? Donc, qu'est-ce que t'en penses, Sébastien?
Alors, principalement, ben oui, il y a des différences entre les fandoms, c'est sûr et c'est clair et c'est évident. On peut prendre deux...
Ben, le classique Star Trek contre Star Wars. On va commencer par le classique.
On peut prendre le classique Star Trek contre Star Wars, ben c'est des fandoms qui, en fait...
On peut dire que Star Trek a débuté
toutes les
fandoms.
Toutes les grosses histoires du fandom.
Ben, tu mentionnais dans l'émission en anglais Doctor Who, mais c'est très très vieux, puis ça devait pas être du même genre. Parce qu'il ne devait pas avoir grand-chose autre que par courrier traditionnel.
Traditionnel. Peut-être quelques rencontres, mais ça, c'était vraiment plus en Angleterre. Mm-hmm. Si on parle Amérique du Nord un peu plus, là, puis vraiment au niveau mondial, ben là, on voit que Star Trek a vraiment commencé à faire la grosse influence des fans qui se réunissaient.
Qui se costumaient.
Faire des points, puis émettre des choses justement comme se costumer, faire des conventions, des choses comme ça. Ce qui se passe présentement, c'est que justement Star Wars est en train de prendre un peu la place que Star Trek avait dans les années 90. Mm-hmm. Donc le fandom est très actif, mm-hmm, et très présent.
Plus jeune, parce que Star Trek, la génération vieillit quand même, les fandom vieillissant. Vieillissant, même s'il y a les nouvelles séries comme Enterprise et ces choses-là, c'est plus comme avant. Je veux dire, t'as beaucoup d'autres séries. Je pense que Stargate a beaucoup remplacé Star Trek pour la télévision, je dirais, principalement. Mais on peut toujours... Qu'est-ce pour ce qui est de la science-fiction, je dirais que Star Trek va toujours avoir été l'exemple que le public se souvient.
Qui a parti toute l'histoire.
Quand tu penses fandom, maintenant, de plus en plus, tu penses Star Wars, mais la science-fiction est associée automatiquement à Star Trek. Donc, comment que le public nous voit en tant que fan de Star Wars, eux vont peut-être s'imaginer que c'est comme Star Trek. Parce que Star Trek, c'était comme l'extrême, si on peut dire. Quand tu vois des documentaires comme Trekkies, puis qu'il y a du monde qui ont... Il y a un dentiste qui s'habille en Star Trek, puis qu'il y a une clinique dentaire à décor Star Trek, là, excuse-moi.
À décor plus sci-fi, parce qu'il y a un R2-D2 dans sa salle d'attente.
Bon, mais enfin, quand même, c'est extrême beaucoup. C'est ça. Puis c'est ça que les gens vont se souvenir. Star Wars, c'était des gens extrêmes aussi, mais... Que le monde en ait vu ou pas, ils vont penser Star Trek, ils vont dire aussitôt que c'est de la science-fiction.
C'est comme c'est des lié fous. À ça. Là,
c'est des débiles mentales qui sont bons pour l'asile. Là.
C'est un lien direct qui se fait et qui commence un petit peu à se défaire, je dirais, au sein, mm-hmm, de la population générale. Justement, grâce à des choses comme les 501st, mm-hmm, à des parties de fandom de Star Wars comme les 501st, qui font des événements de charité, des choses comme ça, mm-hmm, qui montrent une autre présence.
Ce que les autres fandoms n'avaient pas vraiment.
Ben, les Klingons faisaient des choses comme ça, ouais, mais sincèrement, être un enfant de 7 ans puis avoir un ça Klingon qui vient me voir à l'hôpital ou un Stormtrooper, je vais préférer le Stormtrooper, ça fait moins peur quand il enlève le casque. mais c'est ça, c'est des grosses différences comme ça. Puis, il y a aussi le fait que, ben, il y a des fandoms comme Harry Potter, que ça c'est plus un fandom littéraire, mais, mm-hmm, que les films suivent, donc ça touche vraiment deux...
Rapidement, il y a Abner qui nous mentionne qu'on a oublié Battlestar Galactica, c'est vrai.
Qui est nouveau, ben Firefly.
Ben l'ancien et le nouveau, Firefly. C'est ça. Exactement. C'est vrai que Battlestar Galactica, je sais pas si dans le temps il y avait un fandom par rapport à ça. Moi, je me souviens que j'écoutais ça, la vieille série, quand ça passait, quand c'était diffusé en direct à la télévision, en direct. Quand la série originale passait à la télévision... Monsieur, j'écoutais ça, puis je trippais au bout. Là. Autant que Star Wars, même peut-être plus, parce que c'était régulier.
C'est ça, ça toutes les semaines. Là.
Exactement. Yeah. C'est ça, on avait, tu sais. Maintenant, la nouvelle série, moi, malheureusement, j'ai pas Space ou Sci-Fi Channel, fait que je peux pas vraiment l'écouter. J'ai vu le pilote, l'émission de 2 heures que j'ai adoré complètement, puis que je veux m'acheter la première saison, puis tout, parce que c'est vraiment bon, là. Mais... C'est un autre genre de fandom maintenant. Avec la télévision, les fandoms se multiplient vraiment. Mm-hmm. Avant, c'était cinéma. Il n'y avait pas beaucoup de fandoms...
De télévision, des choses comme ça. Puis là, il y a Star Trek qui est arrivé, évidemment, qui était à la télé, qui a fait qu'il y a vraiment un fandom qui s'est développé sur la base, mm-hmm, d'émissions de télé. Puis là, les films sont sortis, puis ça a aidé un peu au développement de ça. Puis, on peut voir à côté de ça qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont parties après ça. Comme Battlestar Galactica, oui, il y a un fandom qui était autour de ça, des gens qui se costumaient dans les conventions. Il y a de ça 20 ans maintenant, dans le milieu des années 80. Justement, dans des gens de Space 99 ou de Battlestar Galactica, c'est quelque chose qui a énormément marqué une grosse partie de la population, toutes ces émissions-là, puis qui en a atteint certains dans leur vie plus particulièrement que d'autres. Donc, c'est ça, c'est... Il y a différents fandoms qui se sont créés, mais il y a aussi énormément de choses qui sont rattachées à ça, qui sont arrivées, donc, les œuvres de charité, mm-hmm, et puis... plus souvent rattaché à Star Trek qu'autre, mm-hmm, chose, parce que Star Trek, c'était le gros mouvement que tout le monde, mm-hmm, voyait puis se rendait compte.
Maintenant, en frais de dimension, comment que tu penses Star Wars se compare à Star Trek en frais de membres ou de fans?
En frais de dimension en tant que tel, actif, je dirais que Star Wars est plus actif que Star Trek. Malheureusement pour le fandom de Star Trek, j'ai rien contre. Mais on voit qu'il y a vraiment une diminution de la présence des Klingons dans des conventions, des choses comme ça. On parle de 200-300 Klingons il y a peut-être 10 ans. Puis là maintenant, ben, on en voit une vingtaine, une trentaine. Pas vraiment plus.
Mais Star Trek a pas eu autant le privilège d'avoir Internet pour diffuser le fandom.
C'est justement une des choses qui a tué énormément le fandom de Star Trek.
Internet.
Parce que les gens se tenaient plus sur Internet, sur des forums qui commençaient à développer, des forums BBS, des choses comme ça. Ça permettait un rapprochement, mais en tant que tel, ça les éloignait parce qu'ils faisaient plus de rencontres dans la vraie vie pour jouer aux jeux de rôle de Star Trek, des choses comme ça.
Okay.
Une chose que les Klingons faisaient énormément, c'était se regrouper une fois par mois dans leur vaisseau qui était dans leur ville. Comme à Montréal, il reste présentement deux vaisseaux Klingons. Qui surveillent
des cellules de fans, dans
c'est
le fond.
Ça, des petites cellules de fans. Mais en tant que tel, ces deux vaisseaux-là communiquent par Internet, donc se rencontrent pas aussi souvent, puis font plus autant de choses qu'ils faisaient auparavant, il y a 10 ans, mettons.
De toute façon, on reviendra pas sur le fait que c'est pas mal plus la compagnie Paramount
qui a pas aidé,
parce qu'ils ont vu qu'Internet devenait trop gros, puis ils ont décidé de tout couper, fait que les fans en ont eu marre, puis ils ont changé de série.
C'est ça.
Tout simplement.
Puis quand c'est rendu que c'est les fans qui produisent eux-mêmes leur série.
C'est vrai.
C'est
quoi
New
le nom?
Voyage.
New Voyage. Une série Star Trek faite par les fans. Donc ça vaut la peine.
Nouveau Voyage sur Internet qui a autant d'effets
spéciaux. Puis de...
Ben, c'est pas auditeur, là, mais c'est.
De téléspectateurs
que l'émission Enterprise en avait, et même plus.
On pourrait dire plus des internautes maintenant, vu c'est sur Internet seulement.
Des interspectateurs.
Oui, c'est ça, des internet-spectateurs. Ouais, enfin, je sais pas trop comment comparer ça. Maintenant, peut-être un des fandoms qui a grandi plus rapidement les dernières années, je dirais, c'est Stargate. Ça a été assez exponentiel. Moi, je me rappelle, j'avais vu le film au cinéma, puis je m'étais acheté ils ont fait 4 ou 5 romans mais basé sur le film et non sur la série télé, avant que la série télé commence. Je les ai pas toutes lues encore, je les ai pas toutes lues, c'est vraiment basé sur le film. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? La série Stargate est sortie et puis elle a remplacé le film complètement. Et puis maintenant le fandom est grandi beaucoup, encore une fois, c'est régulier. Donc, et puis ils ont même maintenant une deuxième branche qui est Stargate Atlantis, qui refait encore d'autres fans. J'imagine que fan d'un est fan de l'autre, peut-être pas nécessairement. Je pense que c'est le cas, de laisser un commentaire là-dessus, on va voir tout à l'heure. D'ailleurs, j'invite tout le monde qui n'ont pas laissé leur commentaire encore à le faire dans le forum. Stargate, moi j'ai juste écouté le début, donc je me considère pas vraiment un fan de Stargate en tant que tel. Je sais qu'il y a un énorme fandom, t'as beaucoup de cellules de SG...
De Stargate X, Command, là, c'est
Stargate
ça.
Command un peu partout en Europe, à Montréal. C'est quoi le numéro, tu disais, 25?
À Montréal, c'est SG25. À Toronto, c'est SG16.
En France, à Paris, ça doit être un... Je suis certain que si le cas va nous le sortir, parce qu'elle doit être membre. Mais comment qu'il se compare? Je sais pas en quantité. La télévision, c'est très puissant. Hein, comme média de... Puis Stargate, ça doit être... C'est universel, c'est... Stargate, parce que ça se passe sur la Terre. Donc, il y a un intérêt quelconque. C'est de la science-fiction, mais...
Puis on le voit énormément dans la dernière série, Stargate Atlantis, où c'est vraiment une équipe internationale qui vont sur Atlantis, okay, là, pour explorer un peu, puis voir ce qui se passe à d'autres parties de l'univers. Là.
On peut parler de Firefly. C'est quand même assez... Ça a été juste une série de 12 épisodes qui a été coupée en plus à la télévision par Fox, mais qui, surprenamment, a toujours un fandom. Et maintenant, avec le film Serenity qui sort bientôt, peut-être pas le seul film d'ailleurs, le fandom apparaît. Mais moi, qu'est-ce que j'ai été surpris, c'est que dans beaucoup de conventions encore, depuis que la série a été annulée, t'as beaucoup d'acteurs qui sont présents dans les conventions. Puis moi, j'avais aucune idée qu'il y avait un fandom de ça.
Puis il y a aussi beaucoup de gens qui se costument dans les personnages de Firefly. C'est vraiment étonnant. Et pas étonnant aussi en même temps, il y a une autre série qui s'appelle Space Above and Beyond
qui a été coupée aussi.
Qui a été coupée par Fox après un an de diffusion seulement. C'est dans les années 90. C'était sur une
c'était terrestre militaire.
Ben, c'était une équipe de Marines. Mm-hmm. Intergalactique.
C'était dans un futur possible.
C'est ça, c'était en 2067, là, dans le fond. Les Français peuvent connaître ça comme étant Espace 2067, je pense, si je ne me trompe pas. Et justement, c'était une excellente série, puis très, très militaire, mais vraiment, vraiment bon, un bon développement de personnages.
Est-ce que c'était sur Fox aussi?
C'était sur Fox.
Pas surprenant.
Après un an, ça s'est fait canceller. Fox a la mauvaise habitude de canceller plusieurs shows comme ça.
Il y a Nebaf qui nous sort un spec webtateur.
Un spec webtateur.
Webtateur.
Et il y a Kenobi One qui nous envoie par MSN. Stargate SG1 en France? Ben oui, oui. Il y a probablement un groupe de Stargate en France.
Oui.
Donc.
Aussi, on va retourner sur Battlestar Galactica. Ça, c'est un fandom définitif de l'ancienne série et probablement de la nouvelle, j'en suis certain. Maintenant. Comment que. Est-ce que. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être fans des deux séries, mais est-ce que. Vu qu'ils ont fait tellement de changements entre les deux séries, ils ont changé un peu l'histoire, Starbucks est rendu une femme, etc. Est-ce. Puis ils ont, comme au lieu de faire une continuité de l'histoire, ils ont décidé de la réécrire. Donc c'est comme deux univers parallèles qui ne se croisent pas, à part qu'ils recherchent la Terre. Comment que les fans considèrent ça? Si t'es fan d'une série, est-ce que t'es fan de l'autre? Si t'es pur et dur de la première série, tu veux rien savoir de la nouvelle? Ou si t'as jamais connu la première, puis t'es fan de la deuxième, est-ce qu'ils peuvent... Je me demande s'il y en... Ben, il doit y en avoir qui s'entendent pas, mais je suis certain qu'il y a un fandom quelconque qui doit être très petit encore. Je veux dire, Star Wars doit être difficilement battable. C'est oui, Star Trek, c'est là depuis plus longtemps, mais Star Wars, c'est pratiquement 30 ans, et puis ça a seulement vécu sur 6 films. C'est ça qu'il faut quand même mettre en compte là-dedans, c'est que c'est juste 6 films, comparativement à des centaines d'épisodes pour Star Trek. Et 11 films, il y a combien de films à Star Trek? 10-11?
Présentement, sont à 10 films. Je pense qu'il y en a un 11e qui s'en vient.
Ah ouais?
Ouais.
Malheureusement.
C'est des choses terribles.
Enfin, pour ce qui est de la qualité des fans, ça doit être sensiblement la même chose. Je pense pas qu'il y en a qui se costument plus que d'autres. D'après toi, toi tu connais un peu plus la science-fiction. Y a-t-il des fans qui se costument plus que d'autres dans certaines séries?
Au niveau des séries télévisées, je dirais que... Bon, il y a Star Trek qui a encore beaucoup de gens qui se costument en ces personnages-là. Évidemment, c'est sûr. Firefly, dans les dernières années, j'ai vu énormément de gens se déguisant Firefly.
Surprenamment,
oui. Pas beaucoup de personnes qui se déguisent en Farscape, même s'il y a un fandom très, très actif de cette série-là de Jim Henson. Ensuite, au niveau...
Bien sûr, quand on parle de Star Trek, on parlait de tous les dérivés, là, Babylon 5... Babylon 5, c'est pas ça, je veux dire l'espèce de base, là.
Ah, Deep Space Nine.
Deep Space Nine, puis Voyager, Next Generation.
Même les films, etc. Babylon 5, c'est aussi quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui vont se costumer en. C'est une série qui a duré pendant 5 ans, de J. Michael Straczynski, qui va être d'ailleurs à SFX la semaine prochaine. Une série très militaire et politique qui passait des points assez importants, surtout au moment où la série était diffusée, ce qui lui a causé plusieurs reproches de la part de plusieurs personnes. Là. Mais c'est une série qui a énormément marqué le monde de la science-fiction. Puis c'est une série qui a toujours été un peu continuée, soit via des livres, soit via d'autres choses. Pour revenir au niveau des gens qui se costument en série télé, surprenamment, G.I. Joe, qui est juste une série animée, mais qui a quand même beaucoup de gens qui se déguisent en
mais vieux, ça, c'est vieux comme le monde de G.I. Joe. 1985,
tout ça. Là.
Non, mais si on parle juste des poupées de G.I. Joe, là, ça date des années 60, cette affaire-là, là, facilement. Là.
C'est ça.
C'est genre nos parents qui pratiquement n'avaient, là. Boum.
Non, c'est presque.
Avez-vous entendu le presque accident en face de chez nous? Il y a David qui parle des fandoms Alien et Alien Predator. Là.
Alien versus Predator.
C'est pas très gros, par contre, d'après moi. Il y en a qui se costument, il y en a qui se costument là-dedans, mais est-ce que ça s'étend plus que les costumes? Bonne question. J'en ai vu qui se costumaient. David, un habit de prédateur.
C'est ça, il y en a énormément qui sont costumés au niveau des films de Alien versus Predator. Il y a un gros fandom qui a été créé à partir des deux films, surtout avec les jeux vidéo. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens justement qui ont fait les Alien versus Predator, des fanfics là-dessus. Mm-hmm. Qui est-ce qui gagnerait? Ça a toujours été la question qui reste sans réponse. Puis même dans le film, la question reste un peu sans réponse parce que oui, les prédateurs gagnent, mais à la fin, on voit qu'il y en a un qui
est mutant,
qui est pollué par un alien, puis on voit que ça va faire une bébite assez effrayante. Donc,
exactement. On va passer maintenant. On a pratiquement seulement parlé de science-fiction, si vous avez remarqué. Qu'est-ce qui est plus spécifique à la science-fiction, c'est que c'est majoritairement masculin, nécessairement. Pourquoi? Ben, probablement parce que, bon, c'était pas accepté quand t'étais une femme dans le temps, ou moins ça, les femmes, c'était plus la Barbie, puis la science-fiction, ça les intéressait pas, ou c'était mal vu, donc c'était différent. Si on compare avec les fandoms de fantasy maintenant, Harry Potter, Lord of the Ring, etc. Oups.
Je suis désolé. J'avais oublié de faire.
Les fandoms où les femmes sont très présentes, beaucoup plus qu'en science-fiction. Comment qu'on peut les comparer? Lord of the Ring, on va revenir un peu plus tard sur la différence entre la littérature et les séries sorties sur médias. Mais est-ce que le fandom Lord of the Ring est aussi gros que Star Wars? On pourrait croire que oui, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui aiment les séries fantaisistes.
C'est ça, au niveau des femmes dans le fandom, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent la fantasy. Donc, on va regarder à des choses comme des livres de Dave Duncan, beaucoup de livres, beaucoup de lectures de littérature. C'est Anne
Rice.
Non.
Les vampires.
Ben, il y a Anne Rice, Interview with a Vampire. Mais c'est toute la série Dragons of Pern, là,
mm-hmm.
que justement un de nos auditeurs anglais mm-hmm. nous rappelait, dont le nom m'échappe encore.
Lilos, mais bon. Le nom de la série, je me souviens pas.
C'est
Dragon of Pern, elle est l'auteur. Of Pern,
c'est l'auteur que le nom m'échappe. Là. Enfin, tu te recherches.
C'est Brittany quelque chose, ça s'appelait, je me souviens pas. Brittany Murphy, non. Non, pas en tout. Enfin, ça pour dire, est-ce que.
Anne McCaffrey,
ok. Mais est-ce que fandom de Lord of the Ring, qui s'étend sur des décennies, est-ce qu'il est aussi gros que Star Wars? Les femmes sont probablement plus discrètes, vu que c'était littérature. Ça a commencé il y a très longtemps. L'Internet n'existait pas nécessairement. Parce qu'il a sûrement été plus populaire dans les 30 dernières années que dans les 5 dernières années, malgré les films. Mais j'imagine, parce que Lord of the Rings, c'est le livre le plus vendu après la Bible, la série de livres, si je me souviens bien, puis Harry Potter vient en troisième, pratiquement, dans les séries de livres vendus. Donc, il devrait avoir beaucoup, beaucoup de fans. C'est difficile à mesurer, parce qu'ils vont peut-être pas autant sur Internet, que les fans de science-fiction sont moins technologie, peut-être, je sais pas, il s'exprime probablement plus en écrivant des fanfictions.
Des slash, toutes autres sortes de choses mm-hmm. qui vont s'exprimer.
Des histoires dérivées d'eux.
C'est ça, plus via la littérature. C'est des fans qui sont beaucoup plus closet, comme on a déjà mm-hmm. parlé sur d'autres.
Des
fans de placard.
Comme c'était la dernière émission.
Lors de la dernière émission, voilà. Et justement, c'est quelque chose qui est quelque peu déplorable parce qu'ils parlent pas de leur passion avec d'autres gens, mais ils la partagent via Internet, justement, le merveilleux nouveau médium mm-hmm. qui tient tout le monde loin de tout le monde.
Exactement. On va revenir sur maintenant la littérature versus les fandoms de littérature contre les fandoms de médias. Je veux juste prendre une note parce qu'on va en parler tantôt.
C'est ça. Ok, c'était pas ça que tu voulais t'en aller parler.
Non, mais entre autres, oui. Je voulais être certain. L'exemple, les fandoms de littérature puis de science-fiction. Est-ce qu'ils sont traités? Est-ce que les fans sont traités également? De quelle façon que le public le voit? La science-fiction, on le dit tout à l'heure, on passe pour des fous à cause que dans leur tête, le public en général ont Star Trek. Puis quand les médias montrent des fans de science-fiction, ils montrent les pires, ils montrent ceux qui sont déguisés, ceux qui n'ont pas de vie, etc., etc. Ils vont pas arriver puis interviewer un gars bien normal qui sort d'une convention. « Ah, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il parlait de tel roman, blablabla. » C'est pas intellectuel du tout.
C'est ça.
Tandis que les fans de littérature, ça va peut-être passer mieux parce que la lecture, c'est plus intellectuel. N'importe qui peut être fan d'une série télé, il s'assit devant son divan avec ses chips, puis sa boisson gazeuse, puis voilà, il devient un fan, puis il peut parler de ça. Parce qu'un fan de littérature, il faut avoir fait un exercice.
Il faut avoir lu le livre.
Il faut avoir visionné
les choses qui se passent dans le livre.
Puis la lecture, automatiquement, donne un attachement intellectuel, parce que les livres sont une relation avec l'intelligence. Dans le passé, ceux qui lisaient, c'était les personnes qui étaient intelligentes.
N'était-ce pas Descartes qui dit un jour, je pense, donc je lis?
Ah, c'est lui qui avait sorti une citation comme ça, okay. Mais c'est quelqu'un, probablement un éditeur qui a sorti une dérivation de cette phrase.
C'est ça.
Une compagnie de bouquins. Enfin, tout cela revient à dire que si on voit la télévision des fans de Star Wars, comment qu'on va les traiter? Comme des fous, des personnes prêtes pour l'asile, etc. Comme on avait eu avec les débats de TQS, c'est une chaîne télévision 4 saisons. TQS qui blastait complètement les fans,
ridiculisait les fans de Star Wars.
Mais tu vois...
Et surtout qui n'était pas prêt à prendre le point de vue justement d'une personne qui est véritablement fan et qui se déguise. C'était « on s'en fout de ce que tu penses, nous autres on le sait qu'on a raison, t'es un fou, va-t'en à l'asile parce que tu portes un costume, même si tu ramasses de l'argent pour des
œuvres
de
charité. »
Ça c'est vraiment extrêmement déplorable du point de vue des médias. Par contre, comme tu t'en allais dire, j'imagine, le livre d'Harry Potter sort...
Quelques semaines plus tard, Harry Potter 6, et tu as les médias qui couvrent les fils d'attente à minuit pour... la sortie du livre à la librairie, et puis, c'est pas des freaks, là, ils sont tous gentils, les fans sont tous cute, même si on est déguisé en Harry Potter, t'as beaucoup d'enfants, t'as des parents déguisés en sorcières, puis en magicien, en wizard, puis etc., etc., et ça passe, ils sont pas
étiquetés comme étant des fous,
exactement.
Des malades profonds.
Y a-t-il une raison pour ça? La raison philosophique ou psychologique derrière ça, ça doit être ce qu'on déduit, c'est qu'est-ce qu'on est en train de débattre, c'est que probablement la lecture est acceptée. La littérature est beaucoup plus acceptée. Un fan de littérature, ah, c'est bien, t'aimes lire. Mais si t'aimes la science-fiction, t'es un moins que rien. Puis on en parlait un peu dans différentes émissions qu'en France, c'est un problème beaucoup plus sérieux comme... Si t'es un fan de Star Wars, tu peux avoir des problèmes dans certains cas
avec tes professeurs à l'école.
Tes professeurs, si t'es fan d'Harry Potter, ils vont te prendre pour un enfant, etc. Je veux dire, c'est des extrêmes. Là. Ici en Amérique du Nord, on n'a pas ces problèmes-là. Tu lis, c'est bien. T'aimes le cinéma, c'est bien. Les fans sont beaucoup plus acceptés ici, je dirais. Contrairement à... en Europe, en tout cas peut-être spécialement en France, en Europe, en Allemagne, etc., je ne sais pas comment sont vus. Ça doit être semblable un petit peu. Mais bon, la littérature reste que les fans sont plus acceptés. Et encore une fois, il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont lire, je crois, parce que les jeunes garçons préfèrent jouer aux jeux vidéo.
Un jeu vidéo,
etc. Là. On revient sur un autre sujet complètement, mais bon.
Donjon Dragon, peu importe.
Exactement. Mais encore une fois, donc, la littérature et le fantastique vont mieux paraître. Parce que le fantastique aussi, c'est servi au Moyen-Âge. Ça peut être un groupe de gens qui aiment le Moyen-Âge. Ça n'a pas besoin d'être fantastique, mais ça va passer mieux parce que c'est l'histoire. C'est comme être fan de l'histoire un peu. Le fantastique, c'est une dérivation de l'histoire moyenâgeuse, si on peut dire. Donc, ça peut passer mieux. Science-fiction, c'est un futur. C'est des fous. Ils délirent au futur.
C'est ça. C'est pas qu'est-ce qui serait passé s'il y avait encore des dragons qui existaient et qui étaient vivants.
Exactement. La citation, c'est « Je pense, donc je suis ».
C'est ça. Merci, Mandalore.
Et voilà.
Mais, non, c'est ça. Effectivement, malheureusement, c'est une étiquette qui est donnée à trop de gens. Puis, même souvent, il y a des fans de littérature qui vont renier les fans de science-fiction, puis qui vont rester hébétés quand leur auteur favori va écrire un livre pour une série comme Star Wars, mm-hmm, ou Star Trek ou d'autres séries comme ça. Je vais prendre un très bon exemple, Greg Bear, qui écrit, mm-hmm, le livre de l'épisode 1, qui a écrit Rogue Planet,
mm-hmm,
a aussi écrit plusieurs livres de fantasy.
Mais écoute, je dirais pratiquement tous les auteurs Star Wars ont fait du fantastique avant d'écrire Star Wars.
C'est ça.
Complètement. C'est pratiquement inévitable parce que il y a beaucoup plus d'écrivains de fantastique. Mais le fantastique, c'est beaucoup plus large que la science-fiction. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de science-fiction en bouquin aussi. Là. De toutes les séries, on a une série de bouquins. Puis t'as beaucoup d'histoires fantastiques dans un futur possible, dans un futur impossible, ou comme Star Wars, dans un passé très très lointain. Mm. N'est-ce pas? Donc, c'est pas mal nos commentaires à nous. On a passé, je pense, sur beaucoup de choses. On va aller lire un peu qu'est-ce qui s'est dit
dans le forum.
Dans le forum.
Je vais mentionner Snowtrooper est passé dans le chat, puis il nous parlait du forum du fandom de Buffy.
Mm-hmm, c'est vrai.
Qui est un forum beaucoup plus axé vers la jeunesse que vers la
c'est adolescent Buffy aussi.
Les adolescents, là, c'est ça. Mm-hmm. C'est la vie d'une adolescente, puis c'est vraiment pour les adolescents. Il y a quelques personnes qui se déguisent en Buffy, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qu'on voit dans Buffy, ben, c'est des gens qui sont habillés normalement. Même si c'est des vampires, c'est juste qu'ils ont des gros. Donc, ça fait pas une grande, grande différence.
C'est pas du fantastique, c'est pas de la science-fiction. On peut pas dire que c'est du réalisme, mais ça reste de la fiction, point. C'est pas du fantastique, puis c'est pas... malgré que les vampires peuvent être associés au fantastique...
Étant donné qu'ils existent depuis la nuit des temps, en guillemets.
C'est ça, mais on pourrait dire que c'est de la fiction tout court.
Ouais.
Peut-être pas de l'horreur. Buffy, c'est pas de l'horreur vraiment. Ça, c'est un autre fandom qu'on n'a pas parlé. De l'horreur, il y en a beaucoup moins, par exemple.
Ben, de l'horreur, il y en a. Il y a énormément de
et fans. Freddy, Jason et compagnie.
Freddy, Jason, toute la série de films qui a été faite par Lloyd Kaufman, les Trauma Films, qui est de l'horreur comique. Il y a énormément de place qui est à l'horreur.
Mais y a-tu beaucoup de littérature en horreur? Il doit pas en avoir beaucoup.
Il y en a quand même pas mal de littérature horreur, mais en tant que telle, ça a un moins grand impact que, évidemment, les choses de science-fiction ou de fantasy qui font plus penser à la personne. Parce que c'est plus dur de faire peur à quelqu'un livre que dans un film.
Mm-hmm.
Tandis que dans un livre ou dans un film, tu peux faire voir un vaisseau à quelqu'un dans sa tête,
mm-hmm,
sans aucun problème.
C'est vrai.
Donc,
bon, on va aller voir qu'est-ce que CK a dit. Je suis fan de deux choses, Stargate et Harry Potter. T'es pas fan de Star Wars, je suis déçu. je vais détailler ce que pour moi sont ces fandoms. J'ai géré pendant plus d'un an les news et le forum d'un site sur Stargate, et je participe depuis 2 ans à un site sur Harry Potter créé avec des amis. Concernant Stargate, le fandom se regroupe autour de quelques sites, certains plus élaborés que d'autres, mais ce sont surtout des forums. Il y a beaucoup de shippers, Jack Sam bien sûr, mais aussi, et c'est le plus drôle, Daniel avec tout le monde, même les hommes. Il y a beaucoup de fans de Daniel, même un peu trop. Ce sont eux qui, quand l'acteur est parti, ont permis son retour. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plaintes, j'imagine. En France et dans le monde, on a régulièrement des conventions, au moins une par an, en France, avec les acteurs principaux, les autres, des autres, des réalisateurs, scénaristes, etc. C'est toujours agréable de les voir, pouvoir leur poser des questions. Le hic, c'est que ce sont des opérations surtout commerciales, tout est payant et surtaxé. En gros, le prix des 3 jours à Star Wars Réunion équivaut à une journée simple. Mon rêve est d'aller à Vancouver, où tu peux, en plus de voir toute l'équipe, visiter le studio et te faire prendre en photo devant la porte des étoiles. C'est vrai qu'on avait une personne qu'on connaît, une autre Viviane, ici de Montréal, qui est grande fan de Stargate, qui a été faire la visite à Vancouver. Et très grande fan de Star Wars aussi. Les visions par rapport aux gens. Déjà souvent, on ne sait pas ce que c'est cette série. Il faut expliquer avec MacGyver et le mec qui ont des serpents dans le ventre. Ça réduit beaucoup la série et c'est ainsi que les gens la voient, c'est dommage. Il y a beaucoup de produits dérivés pour assouvir une collection. Il y a bien sûr les DVD et c'est dommage. Je me verrais bien avec les petites figurines. Une nouveauté, j'imagine, est un grand changement et l'instauration de la nouvelle série Atlantis. Pour le moment, ce sont les mêmes sites web, les mêmes fans, etc. Tous ceux qui aiment la série normale aiment la nouvelle, mais si à long terme elle prend beaucoup de place et plusieurs saisons, il faudra peut-être songer à séparer le fandom. Je vois pas pourquoi, je veux dire, un et l'autre, Stargate se passe dans un anneau, puis la titre, là, je sais pas, j'ai pas suivi beaucoup la série. Seulement les 3 premières saisons, je pense. Okay. Ça a rendu quoi à 9, là?
9e. 9e, puis 2e d'Atlantis. Puis, ben, parlant justement du fameux Daniel Jackson, il va être à Toronto l'année prochaine.
OK.
En tant qu'invité de Toronto.
Lequel, celui du film ou celui de la série?
Celui de la série.
OK. Maintenant, c'est le cas par rapport à Harry Potter. Ce fandom est le plus nouveau. Beaucoup moins de choses sont mises en place. Il y a aussi une vision autour du côté enfantin. Ce sont forcément des enfants qui aiment Harry Potter. C'est très mal vu d'être un adulte qui en est fan. On est tout de suite catalogué à avoir un problème avec l'enfance, etc. De plus, chose bizarre, on dit sinon que Harry Potter est plus un truc de fille. Et cela, je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être parce que c'est fantaisiste. Je sais pas.
C'est un des points, je crois, qui a tendance à attirer.
Non, ça doit être à cause de la sorcellerie. Sorcellerie est plus associée aux femmes, les sorcières, qu'aux
hommes en tant que hommes. Les sorciers. Ouais. Mm-hmm.
Vas-y avec Jaina, si tu es dans le forum.
Je suis dans le forum. Alors, Jaina nous dit qu'elle va nous parler du forum Harry Potter.
Fandom.
Harry Potter, pardon. Depuis l'ouverture du site officiel de J.K. Rowling, l'auteur, le fandom s'est très rapproché d'elle, surtout dans les pays anglophones. Pour la sortie du tome 6, elle a même organisé un week-end avec des enfants qui pouvaient l'interviewer, et les webmasters des plus gros sites Harry Potter y ont été conviés, avec le droit à une entrevue privée. Par contre, en France spécifiquement, l'organisation d'événements est très difficile. Gallimard, la maison d'édition, n'organise rien publiquement, et les avant-premières des films se font également de façon privée. Pour la sortie du 6 en anglais, certaines librairies avaient prévu des ouvertures spéciales, mais ils n'ont pas fait de communication avec les sites de fans. En octobre, ce tome sortira en français, et nous avons pris les devants avec l'ouverture d'un site commun, genre ADF, où nous allons répertorier les événements. Mais pour l'instant, les librairies ne semblent pas pressées, et une seule ouverture exceptionnelle a été recensée. La FNAC n'a même pas mis d'événements sur son site. Bref, nous allons devoir tout prévoir au dernier moment, même si nous avions la volonté d'un événement de grande taille.
Ça, c'est le problème des fandoms, parce que toutes les compagnies officielles se foutent complètement du marketing organisé ou des activités organisées par le fandom.
Je pense qu'en fait, c'est pas juste les compagnies officielles, c'est vraiment toutes les compagnies se foutent des fans. Ils savent qu'ils vont vendre les livres quand même, dans le cas d'Harry Potter, puis ils ont pas besoin d'organiser de quoi de spécial pour
autour,
souligner
c'est ça.
Eux
autres, l'argent rentre, pas besoin de faire de quoi de plus, puis d'engager des gens pour faire des décors, puis...
C'est ça. C'est
l'animation.
C'est absolument inutile à leurs yeux. C'est dommage car c'est de la publicité gratuite que de faire venir les médias. Oui, tout à fait. Pour ce qui est des conventions, il n'y a rien en France, Nick Warwick Davis qui vient régulièrement, comme nous le savons bien, en tant que fan de Star Wars. Par contre, en Angleterre, il y a des conventions régulières avec le plus souvent les jumeaux Wesley, James et Oliver Phelps, Seamus Finnegan, Devin Murray et Tom Jedusor / Riddle, Christian Coulson, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'on a là un fandom plutôt jeune et les responsables français de la Warner et de Gallimard sous-estiment les fans adultes qui peuvent plus facilement se déplacer et donner vie au fandom.
C'est vrai que majoritairement, c'est des fans relativement jeunes parce que c'est des livres pour jeunes à l'origine, Harry Potter, mais qui a été développé qui, maintenant, qui deviennent de plus en plus...
Qui grandissent avec les jeunes.
Exactement. Puis qu'est-ce qui va arriver au fandom d'Harry Potter quand tous les livres vont être terminés?
On va faire un feu de joie.
Non, mais c'est ça. C'est un fandom qui est destiné à s'écrouler peut-être à long terme. Je pense pas qu'Harry Potter va durer aussi longtemps que Lord of the Ring. Lord of the Ring qui était rendu pratiquement un livre qu'on mettait obligatoire à l'école pour lire dans les cours d'anglais dans le temps, etc., pour apprendre les cours de littérature.
C'est ça.
Donc, c'était dans les livres obligatoires. Je pense pas qu'Harry Potter va atteindre ce niveau-là.
Ce niveau-là, mais ça serait encore peut-être possible. C'est possible et impossible. C'est possible parce que c'est quelque chose qui est un livre relativement simple à lire quand mm-hmm. on s'y est au premier, puis qu'on peut facilement faire une analyse là-dessus. Contrairement à Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, qui est un livre relativement plus difficile à lire et plus difficile à faire une analyse
sur. C'est complexe.
Parce que c'est plus complexe, il y a plus de
Harry
choses
Potter à analyser. Harry Potter se passe en partie sur la Terre, j'imagine. C'est tous des attributs terrestres que tu peux voir. Qu'est-ce que je pourrais mentionner par rapport à Harry Potter? Merde, j'avais une idée. Ça pourrait continuer s'il y a d'autres auteurs ou que Rowling décide de contredire ce qu'elle a dit puis d'en réécrire d'autres. De faire des histoires parallèles ou etc., etc. Ce que je me doute, parce que je pense qu'elle doit être tannée un petit peu, là, à l'heure de le finir, d'après moi, là, le dernier livre, puis
je pense que ça passer
à autre chose. Même elle veut passer à autre chose sous un autre pseudonyme pour pas qu'elle soit reconnue. Donc,
C'est ça, mais je pense qu'elle s'attendait pas à avoir cet effet-là.
Mm-hmm.
Elle s'attendait pas à recevoir autant de reconnaissance pour ce qu'elle a fait. Donc, ça lui a vraiment, vraiment fait peur.
Mm. Continue. Le problème? Non, ça, tu l'as fait.
Okay,
on est rendu à Emperor Palpatine. Pour moi, il n'y a que deux fandoms dans mon cœur, Star Wars et le Seigneur des Anneaux. J'ai acheté plusieurs produits dérivés de chacun de ces fandoms, tels les livres, bien sûr, les DVD, les dessus de lit, etc. Le problème, c'est qu'il est difficile de trouver d'autres fans de Star Wars dans ma région. Mon rêve serait de faire partie de la LCF avec des amis, car je trouve génial ce qu'ils font. Mais bon, peut-être dans 2 ans, ce serait bon car j'aurai la majorité, donc je pourrais faire selon mon envie. Pour le Seigneur des Anneaux, il existe un peu la même chose, mais pas au même niveau. Et plus rien ne vaut Star Wars, donc je place cela en second. À bientôt, c'est encore merci pour votre émission géniale. Voilà.
Donc, juste pour revenir un petit peu plus tôt sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, non, j'ai oublié ça. Continue. Je vais continuer en fait. Neo Skywalker qui nous écrit, eh bien personnellement je suis fan de beaucoup d'univers, dont Star Wars bien sûr, mais aussi Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Alors, pour les différences entre les fandoms, franchement, dans leur manière d'être, j'en vois pas vraiment. On trouve des fans, pardonnez-moi le terme, extrémistes, qui sont prêts à livrer des duels de sabre laser ou à se coiffer de chapeaux de sorciers, entre autres, dans chaque communauté. Les raisons qui font qu'on aime telle ou telle saga sont différentes, bien sûr, mais dans la façon d'exprimer la passion pour la saga, c'est au fond la même chose. Dans la façon dont les fans sont traités, là on peut voir des différences. On rejoint un peu le précédent sujet à propos des fans dans le placard. Je veux dire par là qu'il peut être plus difficile d'exprimer son attachement pour Harry Potter ou Star Wars que pour Le Seigneur des Anneaux. Par exemple, à cause des clichés que les gens ont sur ces sagas, mais franchement, je pense que les différences s'arrêtent là. Pour le nombre de fans entre les sagas, il y a plus de fans que Star Wars que de Buffy, à mon avis. Bon, ça, oui, mais...
Je suis pas mal certain, en effet.
Worldwide, je crois.
Colin Meter, tu vérifieras si on a reçu des emails en même temps?
Oui.
Colin Meter, ben moi, un peu à la bourse, je vais vous parler des fandoms de Stargate et d'Harry Potter. Stargate, le fandom, s'est beaucoup développé depuis 2-3 ans grâce au succès de la série TV Stargate SG-1. il y a aussi le spin-off Stargate Atlantis qui a aidé à le faire développer. Personnellement, je suis sur un site Stargate et où on voit bien que le fandom se passe beaucoup sur les forums. Et depuis 2-3 ans, il y a des conventions Stargate. Aussi, mais ça c'est pour les Français, c'est les comics et livres qui a conduit un peu de monde aussi. Harry Potter, maintenant. Le fandom est assez jeune grâce à la sortie du film, du premier film. Il y a beaucoup de sites qui se sont développés ainsi que deux exclus où il n'y a pas eu beaucoup, deux exclusifs français sur Harry Potter. La première a été une web radio 24 sur 24 qui s'est appelée Radio UHP, morte en avril 2005, et un tout jeune projet, un jeu avec RPG Maker, qui est un Harry Potter 5, le jeu. Donne une adresse. Je suis webmaster d'un site en construction et ça se passe aussi beaucoup dans les forums. Je trouve aussi que les fanfiction de Harry Potter sont beaucoup présentes. Sinon, il y a deux mini-fandoms qui commencent selon moi, qui est 24 et Lost, car elle a fait un carton et la deuxième est une méga nouveauté. Ok, carton, ça veut dire succès.
C'est ça.
Ok, cartonné, ouais!
Okay. Ben, Lost, oui, c'est quelque chose qui est récent.
Un
super gros parti, puis qui a vraiment accroché tout le monde partout
dans le monde. Par l'originalité, sauf que, moi, tu sais, on a vu la fin de la série 1, là. On n'a pas appris grand chose, moi, tu sais, là.
Ouais, mais t'as hâte de voir la série
ben oui,
pour savoir c'est quoi qu'il y a dans le maudit cossin,
ouais.
Qui vient de vrai,
bien sûr.
C'est ça.
24, ça c'est bon depuis. Mais je pense pas qu'il y avait un fandom de 24. Aimer 24, oui, mais. Il n'y a pas de CTU à chaque pays avec des groupes de fans de...
Ben, c'est ça. Comme il n'y a pas d'avions qui sont crashés sur des îles dans les...
Non, mais je veux dire, il n'y a pas de monde qui s'identifie, qui se font des groupes comme...
Exact.
C'est ça. Pas... Oui, c'est des grands succès, mais je pense pas que des fandoms au même niveau.
Il n'y a pas des fandoms en tant que tels.
Il y a beaucoup de fans, mais il n'y a pas de fans qui se regroupent pour faire des activités autour de ça.
Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, ben on va faire un charity drive de Counter Terrorist Unit. »
Oui, c'est ça, des CTU.
Moi, je suis déguisé en Tony. Non, c'est moi qui est déguisé en Tony.
Comme là, sinon, on va aller faire un party, on va aller se naufrager sur une île.
C'est ça. on va aux Antilles françaises, là. On se plante tout sur une île. « Oh, mais notre avion s'est écrasé.
» Non, oui, il y a quelques personnes qui font des conventions. Je pense Lost, j'ai vu une convention qui avait des gens de Lost. Mais bon, on va voir comment ça va durer. Ils resteront pas sur l'île indéfiniment parce qu'ils vont perdre trop de fans. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, c'est tout. On va voir s'il y a d'autres personnes qui... Non.
J'ai pas reçu de email. Alors, je regarde rapidement le blog de StarWars.com.
Vu que c'est en anglais, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de...
Moi non plus, mais des fois, on pourrait être surpris.
Ouais.
Ben, pas présentement. Peut-être dans le futur.
Donc, merci de vos commentaires. On va donner peut-être un petit bonjour à ceux qui sont dans le chat avant la pause, même si j'ai marqué après, mais bon, on fait un changement.
Pas de problème. Alors, il y a Columnator, il y a moi-même, Delete, DV2.0, Jaina... Lunatic, Mandalores, Nebaf63, Pittsburgh, Pterodon, R2D3 et Silka. Je crois que Jenna et Silka sont revenus de dîner.
Excellent. Donc, on va revenir après la pause avec nos commentaires sur The Journey King de Troy Denning ainsi que l'entrevue qu'il a faite avec nous il y a 2 semaines de ça.
Et juste pour vous dire que le groupe SG européen, c'est SG4.
Donc, c'est proche du 1, c'est bien. Ah, c'est européen et non français, c'est pour l'Europe.
C'est UK and Western Europe.
Ok, on revient après la pause, on écoute City of Blinding Light de U2.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés, nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Hi, this is Paul Rudish, the art director from Clone Wars cartoon, and you're listening to Star Wars Undirect.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Second sujet, Darkness One de Joyner King, la trilogie de Troy Denning. Donc, ce que nous en avons pensé, je pense que le meilleur commentaire que j'ai lu était le début de la critique de Dark Jedi sur Citlan.net. Donc, je vais lire l'introduction, je pense qu'il résume quand même beaucoup de choses et on va pouvoir continuer à partir de ça. Donc, The Journey King se déroule 5 ans après la guerre avec les Yuuzhan Vong. Luke dirige le nouvel Ordre Jedi. Jason a quitté l'Ordre Jedi. Ben Skywalker a 8 ans et Han Solo a 65 ans. Les Jedi survivants de la mission de Mirkir dans le roman Star by Star reçoivent un appel à l'aide par la Force. Ils décident de répondre au message et se rendent sur la planète Kuribu, où ils découvrent une race d'insectes extraterrestres nommée Killik. Oui, les mêmes extraterrestres que l'on retrouve sur le tableau Killik Twilight que Han et Léa ont découvert dans Tatooine Ghost, le fantôme de Tatooine, pour ceux qui se demandent. Les Jedi découvrent que la colonie est sous-dirigée par le Joyner King, qui est Reynard Tull. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qui est Reynard Tull, c'est un des Jedi qui participait à la mission de Mirkir, et qui avait été blessé et placé dans le vaisseau des Jedi. Ce vaisseau avait été volé par deux Dark Jedi, Welk et Lomi. On apprend que le vaisseau s'est écrasé sur Kuribu, et les survivants ont été sauvés par les Killik. Comme les insectes qui vivent dans une ruche, ils sont tous influencés, on peut dire des joiners justement, influencés par le cerveau de la ruche, et c'est ce qui arrive aux Jedi qui vont sur Kuribu. Cette planète est située aux limites de la frontière de l'espace Shiss et ces derniers n'acceptent pas que les Killik tentent d'élargir leur territoire. Tout ça pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater entre les Shiss et les Killik et que les Jedi de Mirkir se joignent à la ruche des Killik pour combattre les Shiss. Ce qui ne fait pas le bonheur de Luke Mara, Han, Leia et le reste de l'Ordre Jedi et de l'Alliance Galactique. Je pense que c'est une bonne mise en scène.
Ouais.
Ensuite, on voit que, bon, c'est ça, ils ont été influencés. Maintenant, est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont pas puissants dans la force en lisant le roman, ce qui est tout le contraire, mais c'est que ils sont comme influencés. On les a vus comme des grands Jedi, puis ils étaient capables de se battre avec leur, je sais pas comment ils appellent ça, le meld, le mind meld, quand ils se joignent entre eux pour combattre dans la force. Et puis, soudainement, il arrive sur une planète que t'as des insectes. Puis, ben, des gros insectes, faut croire, mais bon.
C'est des grosses bébites.
C'est ça, puis ils se font influencer aussi facilement. Et le problème, c'est que eux autres, en tant que Jedi, voyaient un conflit à résoudre, puis on dirait qu'ils prennent tous les moyens pour résoudre ce problème, ce qui fait que peut-être qu'ils vont un petit peu trop loin, puis qu'ils décident de les aider sans peut-être voir le côté neutre de tout ça. Puis ça va même jusqu'à certains points que, bon, Jason va voir Tenelka, qui est maintenant la reine-mère des Apen. Pratiquement, il va coucher avec pour avoir une flotte pour soutenir...
Ou du moins faire croire à tout le monde et même aux lecteurs.
Exactement.
Mais... Sincèrement, de la façon que c'est écrit, j'ai encore des doutes.
Ok.
J'ai encore des gros doutes.
Mais bon, ensuite, Jaina et Zek qui se réveillent ensemble, il y a moins de doutes quand il l'a deux fois, là. C'est pas deux fois fake, c'est juste sous-entendu.
Mais là, Jaina a dit qu'il s'est rien passé.
Ouais, c'est ça.
Qui croire? Qui croire?
Exactement. Bon, les Killik, on apprend dans cette histoire-là... que c'est eux qui ont construit la gueule, le Ma Installation, puis qui ont aussi construit le Center Point Station.
C'est ça.
On va en parler plus tard avec l'entrevue de Troy Denning, mais c'est qu'ils ont plus que 25 000 ans cette race-là. Donc,
Mais c'est aussi quelque chose que je tiens à mentionner qui est bien répertorié par Leia dans l'épilogue à la fin, c'est que les Killik ont une mémoire... qui peut être assez étendu.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, c'est vraiment dans ces mots. Donc, est-ce que c'est vraiment eux qui l'ont construit ou est-ce que c'est des gens qui sont joints à eux qui l'ont construit puis qu'ils ont comme récupéré cette mémoire-là, donc ils l'ont fait la leur? C'est discutable aussi.
Mm-hmm. Bon, en gros, c'est intéressant comme livre parce que, bon, ça amène le point, est-ce que les... vu que la force est maintenant utilisée à son plein essor par la plupart, c'est vraiment maintenant les actions des Jedi qui vont décider si c'est du côté clair ou côté obscur. Et puis, tu le vois que maintenant qu'il n'y a plus de règles vraiment, ils font seulement qu'écouter la force et d'appliquer le vouloir de la force, la volonté de la force, que ça peut les porter à faire des actes un petit peu plus... qui serait associé au Dark Side. Je vois Mara Jade qui utilise les éclairs de la force là-dedans. Jason qui est passé durant les 5 dernières années a exploré différentes voies de la force de différentes façons. Il a été voir les sorcières de Datomi, le courant qui était dans la planète du crépuscule, etc., etc. Puis il y a des pouvoirs surprenants que aucun Jedi, même dans l'ancienne République, on pouvait voir comme il est capable de faire des boules de lumière pour s'éclairer. Jason a un pouvoir extraordinaire qui est d'aller dans le futur. Donc, il est capable de voir un événement qui va se passer dans le futur, une vision du futur, mais aller l'influencer, ce qui est absolument incroyable. Et puis, qu'est-ce qui fait peur à Luke et Mara Jade? Parce que, bon, c'est le fait que tu joues avec la destinée. Yoda est du temps que le futur est en mouvement, mais là Jason est capable de l'arrêter, le futur. Il est capable d'arrêter le mouvement puisqu'il s'en va là, puis il est capable d'influencer. Il sait que telle personne va se rendre à tel endroit à tel moment, puis il est capable de lui laisser un message à ce moment-là dans la force. Donc c'est vraiment j'ai hâte de voir comment que la série Legacy of the Force va aller, parce qu'il est vraiment au-dessus, une coche au-dessus des Jedi en général. Là.
C'est ça.
C'est vraiment spécial. Bon, pour ce qui est des Killik, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La série Darkness se réfère à... Bon, tu as plusieurs nids, ou des essaims, si on pourrait dire, sur différentes planètes de Killik. Puis il y a un nid secret qui est appelé le Darkness.
Qui est baptisé le Darkness par les Jedi.
Parce que, bon, ils veulent le mal, puis c'est eux, dans le fond, c'est que les Killik communiquent entre eux de façon télépathique, si on peut dire. Sauf que tu as une communication consciente et une communication inconsciente. C'est ça qui explique les Killik du Darkness, comme ils appellent, du nid sombre ou obscur, eux communiquent par le subconscient. Donc, les autres Killik ne savent pas vraiment comment ils sont contrôlés ou peu importe par ce nid-là. Puis c'est ce nid-là qui veut l'expansion, qui se bat contre les Schistes. D'ailleurs, dans la bataille finale, on voit qu'on découvre qu'il y a des larves du Darkness qui dévore des schistes pris en otage. Donc, c'est là qu'on voit le conflit entre les schistes et les Killik. Pourquoi que les schistes, ils se défendaient hors de leur territoire, eux qui ne protègent seulement que leurs limites habituellement, là, ils ont été hors de leur territoire pour prévenir
justement
la venue des Killik, ce qui a créé le conflit.
Puis on voit que les schistes sont vraiment très fiers, puis ils veulent pas avoir l'aide de personne. Parce que le Conseil Jedi essaie d'offrir l'aide, puis invite certains aristocrates Chiss à même visiter l'Académie Jedi pour voir comment les nouveaux Jedi modernes, comme ils les appellent, ils s'entraînent, puis comment est-ce qu'ils sont entraînés à penser. Puis lors de cette rencontre-là, je trouve ça un peu déplorable que les Chiss, justement, parlent pas de ces points-là avec les Jedi, puis gardent ça pour eux-mêmes.
Mm-hmm. Mais tu as le fait aussi que, bon, l'Alliance Galactique est frustrée un peu. Le chef d'État, c'est Cal Omas, est frustré un peu parce que, bon, maintenant, les Jedi, ils ont plus vraiment... Ils sont libres totalement. Ils font ce que le vouloir, ce que la volonté de la Force leur dit de faire. Donc, quand le gouvernement a besoin d'eux, ils sont soit ailleurs, comme là, le gouvernement ne comprend pas du tout pourquoi que des Jedi qui protègent, qui sont allés s'impliquer dans le conflit entre les Killik et les Schistes. Puis le chef d'État n'est pas capable de les ramener. Même Luke, c'est lui qui doit aller les chercher parce que les jeunes Jedi veulent pas revenir. Donc, ça va jusqu'au point que l'Alliance Galactique va peut-être reconsidérer les investissements monétaires dans l'Académie Jedi parce que, écoute, ils payent pour l'Ordre Jedi, les dépenses de l'Ordre Jedi sans pouvoir l'utiliser vraiment. Donc, il faut que l'Ordre Jedi, c'est comme un problème entre le devoir de la conscience et le devoir, pas du travail, mais le devoir à l'État.
Okay.
Le devoir de l'État, de travailler pour l'État pour survenir la paix, etc.
Mais principalement, ils sont toujours en appel.
Ben, c'est ça. Donc, tu as ce conflit-là aussi qui règne. Et puis finalement, bon, on voit à la fin, Han Solo puis Princesse Leia ont découvert une planète. Où est-ce que la planète est en litige? Où est-ce que les Kylik ont pu être déménagés? Donc, on va en parler un petit peu dans l'entrevue, tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant à la fin du roman, c'est que Léa décide officiellement qu'elle ne veut plus rien savoir de la politique et qu'elle se considère à 100% pour son entraînement Jedi. Donc, elle va devenir Jedi Knight, enfin, Chevalier Jedi, et elle va être l'apprentie de Seba Sebatine, le lézard, la lézard.
La lézard, exactement. Maman de Tessar Sebatine.
Exactement. Tu as des bons combats de sabre dans ce... D'ailleurs, Ben Skywalker est un personnage relativement important dans la série, j'ai été surpris, quand même à 8 ans. Et puis... 7, c'est vrai. Et puis... qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est bloqué, il a bloqué son contact avec la Force. Autrement dit, ça vient de quand il est né durant la série NGO. Probablement qu'il sentait dans la Force toute la douleur que sa famille avait. Soit Léa qui s'est fait détruire les jambes, Jason qui recevait l'embrasse de l'embrace of pain, qu'ils disent en anglais, en français, je sais pas, l'étreinte de la douleur, je pense que ça s'appelle en français. Et puis, il ressentait tout ça parce qu'il est connecté un peu par la Force de cette famille-là, etc. Donc, il s'est comme bloqué à la Force. Il est toujours bloqué de la Force dans Darkness. Série. Et il est capable de comprendre qu'est-ce que les Kylik mentionnent quand même. Ce qui me vient à me dire qu'à un moment donné dans l'histoire, Ben Skywalker ramène subtilement dans le Jedi Fire un des...
Jade Shadow,
un des méchants Kylik, les Kylik bleus, les
Kylik Assassins.
C'est ça, les assassins Kylik, ceux qui sont vraiment méchants. Et puis il ramène même jusqu'à la chambre de Ben, puis il y a un combat entre Mara Jade et un Kylik qui est pas piqué des verres, qui est assez intéressant. Puis elle essaie quand même de pas le tuer au début.
C'est ça, ben on voit que Ben est présent au début du combat, puis il fait non maman, je veux pas que tu le tues. Puis elle est tout le temps comme elle sait exactement c'est quoi, puis
il se fait influencer aussi Ben, il est comme ça. Un joiner un peu aussi, il est influencé
parce
aussi.
Parce que Ben est capable de comprendre ce que dit le Kylik, mais
il est bloqué à la Force, donc c'est pas par Force qu'il contacte donc. De ce côté-là, c'est vraiment un bon livre. Moi, j'ai donné 8 sur 10, donc je vous le suggère. Une chose qui est hyper intéressante pour ceux qui aiment la prélogie, c'est que Luke, en faisant un entretien sur R2-D2, tombe sur des enregistrements d'une certaine Padmé et Anakin Skywalker qui parle sur un balcon d'enfants, etc. Il parle de bébés, etc. Donc, c'est des enregistrements que R2-D2 a fait dans Revenge of the Sith, qui sont encore dans les mémoires d'R2-D2, et Luke découvre pour la première fois sa maman. En tout cas, ce n'est pas mentionné que c'est sa maman, mais Luke a l'impression que c'est sa mère. En entendant parler Padmé, puis elle parle à Anakin, etc.
C'est ça.
Et il y a un second enregistrement que Ghent, qui revient, réussit à déchiffrer, et là c'est une conversation entre Padmé et Obi-Wan dans les appartements de Padmé. R2-D2 est encore un système de blocage, et puis c'est pour ça que Ghent est là pour essayer de déchiffrer, mais j'imagine que d'ici la fin de la série, Luke et Léa vont enfin savoir l'histoire de leurs parents, enfin. Comment que la transformation de Anakin à Darth Vader s'est produite. Probablement R2-D2 était sur Mustafar, n'est-ce pas? Il a peut-être filmé quelques affaires, n'est-ce pas? Voir le combat entre Obi-Wan et Anakin, etc., etc.
C'est une partie du combat. Je sais pas s'il y avait le soundtrack qui venait avec.
Enfin... c'est un côté intéressant, un peu comme dans Tatooine Ghost, où est-ce que tu avais les enregistrements d'un journal de Shmi, mm-hmm. puis Shmi parlait de son fils Anakin. Donc, Luke avait appris un peu sur l'enfance de son père. Non, c'est Léa qui avait appris sur l'enfance de son père. Exactement. Donc, c'est très intéressant. Trudening, vraiment un bon auteur, des bonnes idées. Ça vaut la peine de vous le procurer. Il est en format de poche, en anglais uniquement présentement, bien sûr. Donc, c'est pas cher. Puis c'est une histoire aussi bonne, sinon meilleure que dans certains hardcovers, donc ça vaut la peine de se l'acheter.
Je dois mentionner le fait que le livre est un petit peu long avant de commencer. Il commence peut-être c'est un livre d'une quarantaine de chapitres. Il commence environ vers un petit peu passé le dixième mm-hmm. chapitre.
Il y a beaucoup de mise en place pour expliquer les cinq dernières années. Et puis, dans la version anglaise, tu as le e-book Elysia, qui était supposé être dans la version paperback de Destiny's Way. Je crois qu'il... ou Balance Point, je me souviens pas, mais qui n'avait pas été
publiée,
introduite, et qu'il l'avait oublié. Donc, ils l'ont mis dans celui-là. Il est temps, mais il l'avait laissé disponible sur le site officiel, d'ailleurs, à cause de l'oubli. Mais ils l'ont enfin imprimé pour les collectionneurs qui veulent une version papier de cette histoire. Sur ce, on vous le suggère, le prochain, qui est Unseen Queen, le deuxième de la trilogie, sera en magasin le 27 septembre, si je ne me trompe pas, et le dernier de Swarm War se déroule sera en magasin le fin décembre, 27 décembre, je crois. Il a été repoussé un peu. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je m'attendais pas à beaucoup de choses de cette série-là, mais il a réussi à introduire des éléments intéressants qui vont être il va être la base de la série Legacy of the Force, la série de 9 romans qui se déroule post-NGO. Cette série est encore considérée dans la série NGO. Il y a le petit logo NGO dessus encore. Tandis que la série Legacy of the Force change complètement d'air. Ça va être l'ère Legacy qui va se dérouler de 40 ans après A New Hope à 140 ans. Il disait que c'est sur 100 ans environ.
Okay.
Je sais pas si ça va aller jusqu'à 100. Ils ont beaucoup de... En 100 ans, ils ont beaucoup de choses à écrire. Donc, ça vaut la peine. Procurez-vous-le. Procurez-le-vous. Je sais pas comment dire.
Procurez-vous-le.
Vous-le. D'accord. Et puis, sur ça, on va aller écouter l'entrevue de Trudening, qui est relativement longue. Elle dure une heure. Et puis, on va vous revenir ensuite avec la traduction des questions principales que nous avons posé à Trudening, la traduction des questions et de certaines de ses réponses. Donc, à plus tard.
And welcome back to Star Wars on Direct, the voice of Star Wars fandom. And ladies and gentlemen, we're now joined by the author of many books in the NGO and Star Wars Extended Universe, The Corphelion Interlude, Farce Apart, Star by Star, Recovery, the first Dark Nest, and still two more to come?
Yes, Unseen Queen and The Swarm War, and three books in Legacy of the Force, and also Trouble with Squibs. I think it was in The Insider. There you go.
So there you go. We're joined today by Troy Denning. Welcome to the show, Troy.
Well, thanks for having me. It's a pleasure to be here.
It's your third time.
Once again. So last time we had you on the show, we were discussing your post-NGO trilogy.
It was just announced.
Because it had just been announced. And ever since that time, did you actually had a chance to work on another book?
Just the post-NGO trilogy? No, I think that it's been pretty much just working on the post-NGO trilogy. Although I did sell, I don't know how much I'm supposed to talk about this, but I did sell an epic fantasy trilogy to Del Rey.
Okay.
So that I will be beginning to work on that in between my Star Wars books.
Okay, yeah, it spans over a couple of years, so you have some time in between, yeah.
Yeah, I did. So I wrote a proposal and managed to design a fantasy world. Well, actually, it was one that I've been working on for about 5 or 10, I don't know, probably about 5 years.
Wow.
So I've persuaded them that it's going to be a marvelous world, and they're going to publish it for me sometime, I think in 2007.
How many books do you plan for that series?
That should be... I have 100 planned, but they've obligated published three.
Okay. All right. Well, in Tatooine Ghost, they already decided to include references to the prequel into the book as Shmi Skywalker's diary. In Darkness, we have R2-D2 recording of Padme as seen in Revenge of the Sith. Was it your initiative for Luke and Leia to discover information about their parents, or was it Del Rey's?
In Tatooine Ghost, it was Del Rey's idea to have the diary that Leia discovered. I think it was Del Rey's idea. I should say that Del Rey is the one who presented it to me. It may well have been Shelley and Sue together.
Okay.
But in Dark Nest, it was my idea. I had written the outline, and they'd accepted it, and everything was going along just great. And as usually happens with me, I get my really good ideas after everything's already underway. And it's hard to change course. But I wrote them, and I said, hey, how about if we do this? And everybody seemed to think it was a really great idea, so I was able to persuade them to allow me to do it.
So now they actually, they finally discovered that R2-D2 belonged to their parents.
No, basically, R2-D2 filmed
Padme.
Padme. I don't know why he filmed it yet. We don't know yet why he was recording it, but I suppose we may know in the future.
Well, I think, actually we had a lot, that was something that we discussed at length is why R2 would be recording it. I had one idea in my mind, and Lucasfilm had another idea. And it turns out that really the reason he's filming is just because he records everything. That's what he does when he's around.
Oh.
So it's not really a big secret as to why he was doing the recording.
Okay.
Although in an earlier version of the manuscript, it was.
Okay. My take on that was he was like following orders from, you know, the government or the Jedi Council, you know.
Well, I think, let me see if I'm going to get in trouble for what didn't happen.
Okay.
I can tell you what didn't happen is that originally my idea was that he was spying for Anakin on Padme.
Oh, okay.
But then I got the descriptions and I found out that this was before I realized that he'd been given to Anakin by Padme. So I had Anakin, you know, insert a little stealth spyware program on him. And there's still kind of in the Joiner King when Luke thinks that R2's been infested by spyware.
Mm-hmm.
That's kind of a remnant of my original idea.
Okay.
That I left in there because we could without destroying anything, you know, without destroying what they really wanted to do.
Mm-hmm. I can't wait to see what else R2 has in store, because you brought back Ghent, so he's going to try to, you know, slice through R2.
Yeah. That was a lot of fun for me to have to play a little bit with Ghent, because I've always thought he was kind of, he's kind of a character after my own heart. I mean, I'm not nearly that good with computers, but I'm a little bit of a nerd myself, so it was fun to have somebody that I could relate to in that aspect.
Cool.
Have him there.
On a side note, do you still listen to Star Wars music while writing?
Yep, sometimes I do.
Okay.
You know, I guess I've only got so many albums. And it gets a little bit old because I've written a lot of books and it takes a lot of time. So I kind of do it a little more selectively now.
Mm-hmm.
I just hooked up XM radio in my office.
Oh, cool.
I can listen to commercial-free classic music while I write, and then when I get to the battle scenes, I'll put on a CD of the Star Wars.
Nice.
All right. You brought back the Killix as main antagonist in Darkness. The collective mind of the Killix seems to have similarity to the Borg collective in Star Trek. Was it an inspiration?
I don't want to offend anybody, but I don't watch a lot of Star Trek, and when I saw I've read on the boards that there's a similarity to Borg, and as happens with so many of my ideas, somebody copied it from me before I put it down on paper myself.
Okay.
So no, actually, I was that's a joke, by the way.
Yeah, I don't watch Star Trek either, so
yeah,
but, I got the joke.
No, it wasn't an inspiration, but you know, there's good ideas. Have a way of making their way to the surface
in
many places at once. And I think that the Borg has been around. I think it's a fairly old idea that's been used before.
And insect have kind of a collective mind, so...
Yeah. So that wasn't really the inspiration. I'll tell you what the inspiration was. I have a group of friends called the Illiterates, and there are other writers that live in Lake Geneva. And we get together once a month and argue about various things. And I have on many occasions told them that we humans, are not the top species on the planet. That in fact, the planet is owned by insects.
Mm-hmm.
Because if you take a look, you know, if you look in your yard, or even in your house, you know, you'll have like five people living there, and maybe a couple of dogs and you know, mm-hmm. some goldfish or whatever. But there'll be like a gazillion insects.
Yes.
And, you know, so to my way of thinking, it's the insects who rule the world. And that was really the inspiration for using the Killix.
Yeah.
Is that I wanted to prove to my friends that, yes, the insects are the true rulers of the galaxy.
And they survived all the different stages in Earth, so.
Yeah.
And we didn't.
Yeah. I mean, you look at them, and when you investigate insects, they're amazing creatures. They're yeah. just, they're so adaptable and so tough and... And, you know, you just can't get away from them. You can't, you know, they'll be here when we're gone.
Oh, yes.
Well, we're actually very lucky in Montreal to actually have a museum dedicated to insects. It's called the Insectarium.
Oh,
and
that'd be cool.
It's actually right next to here in the studios, ironically enough. If you ever drop by Montreal, we'll take
you. Yeah,
care.
I'll go take a look at it. Fascinated with, I have been fascinated with insects for quite a while, and I think that should be obvious from this trilogy.
From the art that Cliff Nielsen did for the Joyner King, we can tell that there's sort of the Killix actually look like praying mantis of some sort. Is there a particular reason for which you decided to go with that kind of insects?
You know, they didn't strike me as so much as praying mantises as more ants.
Yeah.
But the direction I gave him. You know, I didn't talk to him personally, but they asked me, what do the Killix look like? And I told him to imagine kind of a cross between a bee and an ant and a beetle.
Okay.
So that's, and I think he did a pretty true job of presenting that.
Yeah, and if we look on the two other covers, I think the Killix look a little bit different. So...
Mm-hmm.
So
well, that's the other thing about Killix is you'll notice, I think even in the Joyner King, it's apparent that they come in many different shapes
yeah.
and sizes.
Yeah.
So that they have a lot of different forms that they mm-hmm. can take.
And Danny actually saw a little fact about the colony names that he used in the Joyner King, and it's that they actually come in palindromes. Is there a special meaning, or is it just... a fun thing to do?
No, you know, the reason I did that was because I wanted people, because it's so hard to understand, to grasp the identity, the idea of a Killix identity.
Mm-hmm.
You know, you don't have an individual identity, you have the nest identity. And when you talk about, you know, like Gorog, you don't know whether you're talking about the individual, the nest, or what.
Mm-hmm.
And I just wanted to kind of have a cue to the readers to realize every time they saw that they were talking about a Killix, and that that would be kind of an aid to help them realize that you're talking about something a little bit more amorphous now. So it's to my mind, just a way to help the readers cue into what's
okay.
going on.
And I just figured out that Killix was a palindrome. I'm so stupid.
Yeah. Right. And that was Kevin. I think Kevin J. Anderson is the guy who actually introduced the Killix.
Yeah.
His book, what is it?
Maybe.
Illustrated Star Wars Universe.
Okay.
Right, and I kind of picked him up from there.
Okay, nice.
Quick question related to the nest. Are the Killix from the nest blue because they eat chess?
The dark nest, yeah.
That may be a subconscious, an unconscious... correlation, because I didn't actually intend it that way. I had them black at one time, and I didn't like them having them black.
Mm-hmm.
I couldn't remember what it was. I think it was just that, you know, black is so often equated with evil that I decided I wanted to make them a different color.
Okay.
And they became indigo. So.
Yep. And they became dark blue. So. Not almost black, you know.
So, besides conventions and a news bite from StarWars.com on February 15 of this year, almost all the coverage and promotions has been done by the fan sites. Are you surprised how very minimal the promotion for the Joiner King and Darkness was?
You know, I think I better not comment on that.
Yeah.
Is there any chances that...
Let's just say that I'm a typical author and I always wish that there was more.
Yeah.
Yeah.
Well, I think it's like that for any people, even in the movies industry mm-hmm. and all that.
Yeah.
So, is there any chance that you're going to bring back the squibs in the Darkness trilogy? Please?
Well. So, I don't know. Have you seen an advanced copy? Is that why you're asking the question? Or?
No. It was a guess.
Oh, okay. Well, I guess I can say that there's always a chance.
Cool.
Okay.
Yeah. I mean, the squibs are survivors. They're as tough as insects themselves.
Nice.
In the last interview you actually had with us, you mentioned that Kip Duran was a very irritating character and that you wouldn't mind if he died, or if you could make him die. Did you change your mind? And if not, do you have special plans for him in the trilogy?
You know, actually, after Elaine's dark journey, I started to like Kip a little bit more.
Okay.
And I still think that he's a character who's walking on the razor's edge
mm-hmm.
In terms of survivability. If it's not me, it might be somebody else. But right now I have a certain fondness for mm-hmm. him.
He has matured.
I'm also very fond of Anakin Solo. So don't read anything into my fondness.
Okay.
With the new philosophy of the Force being applied in Darkness, you seem to show how difficult it is to differentiate between actions that are right and wrong. The Jedi are misbehaving and are sometimes weak-minded to some extension by being easily controlled by the Killix. Even Jason, that plays with the brain scanner and sleep with Tennel Ka at some point to get a battle fleet, that's sort of immature, border dark side-ish using a person kind of type of thing. After the NGO war, the young Jedi seem to be very powerful, but now they don't seem to be as much. Can you give us any insight on that?
Well, I think that the young Jedi, I've noticed that some people think that the young Jedi aren't as smart or as powerful in the Darkness trilogy as they were in the NGO. I'm a little bit surprised by that because they're actually very powerful in terms of all of their tactical skills,
mm-hmm.
and you know, in any battle, I think that they're represented as being pretty darn tough. But where they have a weakness to my mind has been in determining what they should do and what's right.
Mm-hmm.
And I think that's a direct outcome of the war. You know, I mean, the war they had to walk so close to the dark side in the war during the war. That the line became blurred, and they really didn't know where it was anymore, and that was a necessity to win the war. But now the war is over, and they're a little bit lost. And I think that that's the kind of weakness that I'm trying to represent in the film.
Okay.
Is a weakness of direction, a weakness of purpose.
Mm-hmm. Because yes, they're really powerful. They're using the meld all the time. But it's just they seem weak to be influenced really easy by the Killix. But it's probably by spending lots of time, and I think the theory is that it's a chemical reaction in the brain that makes them, you know, what they are now.
Right. Both a chemical reaction is what is the mechanism, but it's also a metaphor for their what I call a weakness of spirit. They're
okay.
Not quite sure where they should be. They're not quite sure of their convictions.
Okay.
And it's kind of a metaphor for what happens to you when you're not very sure of your convictions.
Okay. And they see a good occasion to make peace, and they want to go all the way. Probably that's one of the point you try to make, they seem lost. So if they see something that needs to be done, they will go all the way to resolve it, maybe?
That's correct. If they have a purpose in their mind, and they try to accomplish that purpose, but they have forgotten how to look at the bigger picture. And that's kind of what the whole trilogy is about.
Mm-hmm.
Is the necessity of looking at the bigger picture when you're called to action.
Nice. Can't wait to read the rest.
And as I was telling Danny earlier, I think that Membrosia is actually a little bit zombie juice.
A little bit what?
It's a little bit of zombie juice.
Zombie juice? Yeah, well, I don't know quite what you mean by zombie juice, but it's a little bit...
Well, it's helping them to just stay within the nest and, you know, help the Killix and all that.
Right. Well, it's sustenance and also, I don't quite want to say an intoxicant, but a little bit.
Mm-hmm.
Okay. So, do you think the young Jedi action should be in the control of a Jedi Council as it was during the Old Republic, before they become too reckless?
Well, that's the question of the trilogy. That's kind of one of the central questions that the whole trilogy is about. So,
which shall be answered?
Yeah. Well, you know, a good writer doesn't really answer questions; he just raises them and allows them to answer them for themselves. So,
all right.
I don't want to say what my opinion is, but I do want to say that is what the trilogy is about.
Okay. So, in the past 5 years of traveling around the galaxy, Jason learned a bunch of new powers. He's even able to speak through time in the Force now. Does that actually mess with Destiny? Because Jason is shaping up to be the next Darth Vader right now.
Well, it does. It's a very dangerous power because Yoda and the standard doctrine says that there are many futures possible. And when somebody reaches forward in time and pins somebody else to being at a certain place, you've all of a sudden eliminated all of those futures. So it's kind of, I guess it's kind of the equivalent of messing with, Quarks. I mean, you know, it's kind of like saying these atoms will be here at a certain time, and it's going to affect all of Destiny and all of
continuity. The time continuum.
Exactly. So it's a very dangerous thing to do, and I think that's why you saw in the book that Luke and Marna were quite alarmed by him doing that.
Yeah.
They do seem quite alarmed, and I must say, me too. Because he went from this total wuss at the beginning of the NGO series to now this
becoming Uber Jedi.
Uber Jedi, a little bit too powerful for his own good.
Yeah. He is, to me, during the NGO, he was such a confused character. And he came out of that, kind of melding in the unifying force into this great warrior. And I felt that after that, he really needed to go off and become something else, you know, to explore his potential in a whole separate category from the Jedi, and become what is, become not quite the Uber Jedi. I'm not sure that that's quite the word that I would use, but become a different kind of Jedi.
No, exploring the whole specter of the Force.
Yeah.
Basically,
that's it. In the book, we see Mara casually using Force Lightning, to the very big surprise of Luke. We can see on the cover of the Swarm War that Luke also uses Force Lightning. Is that a hint of the new ideal of the Jedi, that is, to succeed in their mission at any cost, whatever the consequences could be?
The Mara using the Force Lightning and the Joiner King was deliberately placed there by me.
Okay.
And I'm not sure. I'm not sure that readers should read anything into the artistic representation in the Swarm War of what Luke's going to become.
Okay.
Okay. I think that's more of a metaphor for what Luke for the conflict of the trilogy.
Okay.
Than it is a hint of the direction that Luke is taking.
Okay.
So I don't want to say that he's not taking that direction, because that I'm a very sneaky author. I will deliberately mislead you. So don't read anything to what I'm saying either. Be aware that some things are metaphorical, and that applies to the paintings as well.
All right. Can you confirm us some information from Suarestini?
Maybe.
For the Unseen Queen, the page proof should be 303 pages.
333. Okay.
Pages.
And that's what I recall them being when I read them.
The original manuscript was 443. Are you aware of what's been cut?
Well, probably nothing has been cut. The manuscript pages are double-spaced in Korea.
Okay.
And the page proofs are single-spaced in, I don't know what their typeface is.
Yeah, okay.
It's a different typeface, and it's much smaller.
Okay.
So one page of manuscript does not condense down to one page of page proof.
Yeah, okay.
Usually about, I think, 1.5
mm-hmm.
pages of manuscript equals one page of page proof, more or less. It's, you know, it could be 1.25 or 1 2/3.
Okay.
There's not a direct correlation.
Okay.
Well, actually, like, mirror that question for the Swarm War. It's listed to be 640 pages on randomhouse.com. But the manuscript was 466 pages. Suarestini expects it to be a bit longer, as there's some slight expansions going on. Do you have any idea of what these expansions are?
No, that's news to me.
Okay, that was mentioned on the StarWars.com boards. So.
Right. The expansion could be anything from just expanding the typeface.
Okay.
You know, the graphic designers will sometimes expand the typeface to make a book more readable or to fill out the you know, when you print something, you have what they call the quartos, the four pages that are folded and
mm-hmm.
they're cut. Sometimes they expand them to fill out that, or you know, there's just a whole bunch of graphic design elements that go into it.
Okay.
It could be that. It could be that they're going to insert an essay that I wrote that was put up on Dren. I don't know if you saw that.
Oh. I didn't.
Yeah. Or it could be, you know, I mean, it could be that somebody is adding something that I missed and they haven't. Usually they send it back to me and say, you know, we need you to correct
because
mm-hmm.
I can't recall an ebook that wasn't put in paper right now. The last one was not recovery but in Elysia that was put in the Journey King. That was the only one left, I think, to be put in paper, so I don't see if another ebook could make it, but
yeah, it's hard to say what they're actually doing with that.
Okay,
maybe one will be coming out for by the time the Swarm War comes out, which actually leads us to our next question. It's actually been pushed back to December 27th. Was it because of the novel Dark Lord?
It's been pushed back to December 27th.
Yeah, the Swarm War. Yeah.
Yeah. Well, that could be because I was kind of late turning it in.
Oh, okay.
So. Or it could be because it's going to be a little easier, or because they want to have... it's more likely, actually, probably, to be the release of the...
Outbound Flight? No?
I don't know which one, but it's you know, they don't want to release two books at the same time, so
okay.
It may well be that they've moved the date back to,
okay.
to accommodate a hardcover.
Okay.
And to make sure that everybody gets time enough to read it.
Yeah.
So
there could be a lot of reasons for that. I'm, mm-hmm. I'm not quite sure what. All right.
Well, we'll get out of the.
Let's ask Shelley.
we'll get out of the big difficult questions now. After NGO, any character could be expected to die. Darkness seems to be heading in the same direction. Without saying who, will a major character like Chewie and Anakin Solo will fall in the trilogy? if you can even answer yes or no.
Right. Somebody dies, but I don't want to say how major they are.
Okay.
Okay. That's good.
Yeah. We know there is one in the Journey King, a secondary character. I'm not sure. Okay, no, I'm not sure if the character is dead.
Well, you know, there are some smaller characters that
yeah.
die.
Mm-hmm.
Well, I could actually ask the question, is Raynar actually dead? But I.
His soul is no more.
Yeah, that's it.
He's been zombied. Okay. How many days, months, or years are there between the three darkness books?
Oh, boy. I actually kind of figured that out once. All right, the first darkness book ends, and then the second one begins a year later.
Okay.
And the reason for that will be obvious. The second darkness book ends, and the third one begins a couple of weeks later.
Okay.
And each one of them takes a period of months, and it varies, you know, between a couple of months and more like 6 or 8 months.
Yeah, because I asked that question because at the end of The Joiner King, everything seems to be calm and neutral. The Kiliks were moving to their new home, and it was kind of a happy ending,
mm-hmm.
you know. So I was wondering, the Unseen Queen cannot be right after that.
Right. Well, they have achieved peace in their time,
mm-hmm.
and I'm sure you recognize the quote.
mm-hmm.
So, okay. Did you begin your writing on Legacy of the Force books? And what can we expect from your particular three books?
From my book, what can you expect? A masterpiece.
Oh.
a masterpiece of misleadingness.
Nicely answered.
Yeah. I don't know. Let's see. What can you expect?
Probably some of your characters, like maybe the Kiliks will be there, the Squibs maybe, and then Leia probably, because you're kind of the expert for those two.
Definitely the you know, I'm a big believer in writing with the big three.
Okay.
Han and Leia and Luke. And I suppose, you know, you pretty much need to include Mara in that
mm-hmm.
now as well. And I also enjoy writing with the young Jedi Knights, but the problem that happens, and I think readers can understand this, is you just can't write everybody and do them justice.
Mm-hmm.
So it's kind of hard, you know, to balance out what you're doing. But I tend to really enjoy writing the major three, and I think that's what the readers who like me tend to enjoy.
Yes.
So it's a pretty safe assumption that anything I write will play a prominent role in it.
Cool.
Whether or not I have the room in the story to also squeeze in stories about the young Jedi Knights, they're not so young anymore. I mean,
yeah.
30. But if I have the room to squeeze in stories about them, I will too. Because I enjoy them a lot. Mm-hmm. I really, really had a blast writing them and mm-hmm. Star by Star.
Do you actually enjoy them more now that they actually have some, that they actually have less boundaries and they can explore the Force further?
You know, I do enjoy them more now as adults than I did as teenagers. They just, because they have a more room for moral conflict. They're at that age in their 20s when things can go catastrophically wrong. And that makes them very interesting characters to write because it's so easy at that age to take a wrong turn
mm-hmm.
and then end up going down a path that is going to lead you into all kinds of trouble. And so that's one of the things that I really enjoy writing about with the younger characters.
In Legacy of the Force, can we expect more of the young Jedi since we can imagine that Han, Leia, and Luke will be getting old? I remember Aaron Austin saying the 60 is the new 40 or something like that.
Yeah.
Well, you know, part of that is my fantasy as an author who is in his 40s about what it's going to be like in 20 years.
Mm-hmm.
And, you know, I still want to be vital when I'm 60, yeah. So I think that's part of that is just is me writing the world as I wish it was.
Mm-hmm.
But I think that as also it's pretty fair to extrapolate that in the Star Wars universe that characters that are in their 60s are still going to be very vital. Just because I know people that are in their 60s now. I play judo,
mm-hmm.
and one of my instructors is in his 60s, and I got to tell you, he is... I wish I was in that. I wish I had been in the kind of shape that he's in now at any point in my life. he's just so strong, so quick, so smooth. And I think that anybody who stays active and has access to adequate medical and nutritional
mm-hmm.
requirements can do that even now. And in the Star Wars universe, they have access to so much more. But I think it's pretty reasonable to expect people to be still vital and active mm-hmm. in their 60s.
Having a long life, yeah.
Right.
Having
a longer life, but also a higher quality of life.
Yeah.
Uh-huh. Well, we're going to go into the fan questions now. We've got one right here from the blogs over at StarWars.com by Rojo Trooper. Troy, your Star Wars book, Star by Star, Tatooine Ghost and the Joiner King, were masterfully written. Thank you for your contribution to the Star Wars universe, especially the NGO. I wish you success in the future endeavors. The Force is truly with you. Is there a reason why the new enemy is Bugs?
Is there a reason why the new enemy is Bugs?
Yeah.
Well, first of all, thanks for the kind words. I always appreciate them. And the reason that the new enemy is Bugs is just because I really think that that Bugs are an underrated opponent. I think that they can be much more terrifying and difficult to eradicate than any other opponent that we have around. You know, it's pretty much the same thing that I talked about earlier when
yeah.
I said my friends and I have these discussions about whether or not humans or bugs really rule the world. And I'm convinced that the bugs are going to be the ones who end up with the world when all is said and done.
Yeah.
All right. Captain Kirazan is asking, why does Mara seem to mistrust Jason when he offers to stay with Ben?
Well, Mara, if you recall in that scene after Mara and Luke discover what Jason did with the time
mm-hmm.
time talking, and I think that has raised her antennae quite high into making her worry about exactly what Jason has been learning during his 5 years away. You know, she does have good instincts. So.
Oh, yeah.
All right. One sent to us by email, a GA2K fan. Why did the younger Jedi, especially Jaina, turned out to be so weak in this novel? The Sword of the Jedi was pretty easily put under control by the Hive, between brackets. It seems Jason has become this uber Jedi, and Jaina hasn't really grown in the Force. Is she ever going to live up to the billing of Sword of the Jedi?
You know, as I said, I think that Jaina's, the fact that Jaina fell prey to the Hive's collective mind is an indication of her spiritual confusion. But I think that there's also something that's being misread in the book, and I think maybe it's because I didn't bring it out strongly enough,
mm-hmm.
is that Jaina is actually responsible for preventing the war. If you read The Joiner King and you look at what she did, she's the one who stopped the war.
Okay.
Know? And to my way, I'm a little bit surprised that people feel that she was weak-minded, because she stayed there, she became a Joiner, and she still found the willpower to do her job as a Jedi.
Because she left the Hive, not left, but at some point in the novel, she realized that she was controlled, and she just left it beside and did what she had to do.
That's exactly right. You know, there's that point where she realizes that she's under the Hive's control, and she realizes that something terrible is happening, and she and Zek try to go down to get into their stealth access, and
mm-hmm.
they can't make it because they're under the mind control of the collective mind. But then she finds another way, and she reaches out to Jag. And because she reaches out to Jag, the war doesn't happen.
Mm-hmm.
She's the one who stops that war before it gets started. He's the one who keeps it stopped long enough for Han and Leia and everybody to get back and take a more active role themselves. So to my mind, I'm a little bit surprised that people have found Jaina to be weak-minded, because to me, she was very strong-minded. I mean, she stayed there in this terrible danger to prevent the war, and she overcame the Hive's collective mind control to do what needed to be done as a Jedi. And at the end, you know, she walked out of there still a Jedi, a joiner Jedi, but still a Jedi. And I don't know that any other character could have done that. I don't think Jason could have.
Mm-hmm. So, yeah, she still.
So that's my take on it. Mm-hmm. And you know, I think maybe I should have brought that out a little bit more strongly.
Yeah, it's probably just because they seem to have joined the Hive easily. That's probably the only reason.
Yeah, they became joiners, but they also maintained their own separate identity.
Yeah.
And that's not an easy thing to do. Mm-hmm. And to me, that was an indication of just how strong she is.
Yes. What about the Stealth X there? Can you give us a description? I know they're black, but do they have a cloaking device, or is it just the paint on them that makes them stealthy?
No, imagine an X-wing.
Mm-hmm.
But then, you know what our modern stealth fighters look like?
Mm-hmm.
With all the weird planes and angles?
Yeah.
Put that onto an X-Wing.
Okay.
So redesign an X-Wing without any flat surfaces, you know, or without any large flat surfaces and with all these weird angles on the wings and no right angles and so forth. And that's what a Stealth X will look like. And it'll be painted to look like stars, and it'll have in the back a big cloaking device, a big unit where they have the cloaking devices and the counter, the things to keep them from being observed, with sensors and so forth.
Because I thought it was cool to have those kind of fighters.
I thought that it was a natural thing for the Jedi to have, and I just thought I was quite pleased with when that thing popped into my head. I said, oh yeah. That's what they need. Because I kind of like hardware, too. I'm a bit of a hardware guy.
Cool.
All right. We've got a question from the chat now.
Yeah, we got Freezior, who's asking, what's the status of the Empire of the Hand?
What's the status of the Empire of the Hand?
Yes.
Well, you know, I probably don't really know myself.
Okay.
You know, there was a whole continuity thing about whether the Empire of the Hand was gone or what had happened to it and why it had disappeared with no outward thing, and I kind of wanted to address that. But at the same time, I didn't want to pin it down because I assumed that Tim might want to come back and use it someday. So I just kind of wanted to explain why it wasn't there right now.
Okay.
And so the status is that it's kind of in hiding, I guess, or in remission or whatever. it's there waiting until it's needed, I suppose.
Okay. I think you had a short article on Random House, and in your description you mentioned that in the galaxy there was pirates who took advantage of new planets like we see in Joiner King, and also that the Botans continued their genocide for the Yuuzhan Vong. It wasn't in Joiner King, that particular situation. Will we see that in the two other books?
You know, it's just kind of there as a background.
Okay. Okay.
It's there, I think, in the first chapter. They say that somebody was investigating it, and it's just mentioned in like two or three places.
Okay.
That kind of thing. The pirates play a little bit of a larger part in the Unseen Queen.
Mm-hmm. Okay.
And some of those kind of elements do, but the Bothan Arcry, if I'm saying it right.
Okay, yeah.
Is just background.
Okay. Cool. You have other questions?
Not right now.
What about the relation between Jaina and Jag? I know there's a lot of fans that want them to get together at some point. I know now there's some tension between them. I know that Jack, I think, still have feeling for Jaina, but I know you cannot answer, but will they get together in your trilogy?
You know, that is a good question. Let's see, what can I say about it? It's only natural that they're going to have some tension, considering they're on the opposite sides of a conflict.
Mm-hmm.
But I felt at the end of the Unifying Force, you could read their passage two ways. You know, you could read it that they were breaking up, or you could read it that they were going to try and keep things together a little bit.
Mm-hmm.
But it seemed pretty clear to me that Jag wanted Jaina to come live with him in the Chiss Empire.
Mm-hmm.
And I just don't see Jaina doing that. She's too independent and too headstrong.
Mm-hmm.
To give up her identity to, you know, to become anybody's wife.
Yeah, she's an important part of the Jedi Knights, you know. So.
Important part of the Jedi Order, important, you know, she's important in all kinds of ways. And she's very independent, and it seemed to me that Jag was asking her to go to the Chiss Empire and become the little wife. And that's the way I read it, and I just don't see her doing that. And so that's kind of where I saw in my own mind's eye that during that 5-year period that their relationship would pretty well have dissolved into one where they realized they weren't going to live together for the rest of their lives.
Nice.
Now, whether or not they're going to get back together in the Harkness trilogy, you know, that's something. Things can change.
Can we foresee a Romeo and Juliet situation?
Oh, I don't think so.
Yeah, you know, I just don't think Jag would make a good Romeo. But let's just, you know, I think that will continue to be an issue, and I don't want to say how it resolves.
Okay.
You know, that she still has feelings for him, obviously, and he still has feelings for her, but they have to work out a lot of stuff before they can come to any resolution.
Mm-hmm. I don't think it will occur, but is the Jedi Knight, the Jedi Order in peril in the way that the Chief of States still hesitates to renew investments in the Order, and if they don't follow what the Galactic Alliance wants to do?
Well, you know, that's a big part of the big part of the story is a conflict between. Duty to state and duty to conscience, and that's exactly the conflict that the Jedi are faced with. Is they have two duties, and they're not sure. It's unclear to them what duty should take precedence.
Okay.
And that's one of the central conflicts of the whole. You know, I mean, that's one of the central conflicts of being a soldier anytime, and being a Jedi Knight, which is something altogether beyond a soldier.
Okay.
You know, it's kind of. Soldier and judge and peace officer all at the same time, and it's a big conflict for him.
I really like Ben Skywalker in the movie. What am I saying?
in the movie. Let's hope so.
In the book, and I can't wait for him to go back and touch the Force again, because he will be so powerful. I don't think it will happen in your trilogy, but can we expect it in Legacy of the Force?
Let's see. What can I say about that? I think I can say that a surprising character will help Ben break through the problems, and then it'll be pivotal. But that he'll have an important role, I should say, in the rest of the Darkness trilogy and in the Legacy of the Force.
Nice. So it will be a major character for the Legacy era, basically.
Well, he'll be a character. I don't know if I should say major, but
okay.
But he'll be, you know, up there in the upper tiers of characters. If you have, you know, first tier characters, second tier, and third tier, he'll be somewhere in there.
Okay.
You know, and part of the reason is I don't know exactly where. You know, I mean, it's not written yet, the Legacy of the Force. I don't know how he's going to play out in those tiers up there. In the rest of the Darkness trilogy, he's pretty much has a similar role than he did as he did in the Joiner King.
Okay, we have a new question from the chat. Marty One asks, there is so much ground to cover in the Star Wars universe. Why are we always going back to Luke, Anne, and Leia? Do you think they will ever be overused?
You know, I don't know whether they'll be overused or not. The reason I like writing the characters, mm-hmm. so that's fun for me to write the characters. I think that probably the majority of readers enjoy reading, want to read about Luke and Han and Leia more than they want to read about some other characters. Although there's a large contingent, obviously, for the younger knights and.
Mm-hmm.
And for some of the other characters that have been introduced. So I think we're going to continue to see a mix of all characters with, if I had to guess, in the classic era, mm-hmm. classic era, when I say classic, what I mean is post-Return of the Jedi onward, probably an emphasis, you know, a slight emphasis toward the big three.
And the original movie character are a big seller. You know, if you don't have a main character from the movie, maybe some readers would less be attracted to buy some books, you know?
That's true. I think that's part of it. These are the characters that people love to follow. I mean, mm-hmm. and that's part of the reason that I think they continue to write books about them. They're also very interesting characters. I mean, the
yeah.
characters grow. You know, they've gone through a lot, and they've grown in tremendous ways, and that's always, you know, interesting for me because I write these characters at different periods in their adult lives. You know, first my first book was Star by Star, and then I went back and wrote Tatooine Ghost, and it was very interesting to go from writing Star by Star to writing Tatooine Ghost when all of a sudden it was almost going back to their innocence,
mm-hmm.
you know, and now writing them in Dark Nest, it's, you know, they've gone so far beyond their, you know, they're jaded. They're a little bit. They're not jaded, but they're tired, and they're, you know, they've just given so much, and they're still out there giving and trying and
mm-hmm.
and determined. And you have to. It's very interesting to try and describe how that's affected them, how that constant, you know, 3-4 decades of tremendous effort has taken its toll on them.
Yeah, we have a joke from Marty One in the chat. Now that Star Wars seems to be like Star Trek with the Borg, is there a chance that Chewie will come back like Spock? Since
well, never say never, but
I don't think that he can survive a moon. Basically.
Well, the scientific explanation for that was that a bubble of hair was actually created between the moon and the planet.
Yeah, right. Okay.
Yeah.
Question from Ikasra from the chat. Is it true that the Kylix are bioengineered animal created by the Geonosian on Yavin 4? What the hell?
I don't know. Well, I don't think so, because I don't think the Geonosians are old enough to have created the Kylix.
Yeah, the Kylix are old.
They're at least 25,000 years.
That's it. They were the first habitant of Alderaan, and, you know, it's
yeah.
really far, far back.
Yeah, I mean, they left Alderaan 25,000 years ago, so they're an ancient race. And, you know, they did, after all, build the Maw and Centerpoint Station.
Yeah, that's it. I forgot to mention that to Sebastian and Brian. The Kylix built Maw Installation and Centerpoint Station.
That's cool.
Yeah.
My installation?
Yeah.
Bugs?
They built that?
That's the way they remember wow. it.
Okay.
But the center point station seems to be very technological, and the Kylix seems to be kind of old-fashioned in a sense. They don't... No, and that's not true, since their hive is like asteroids connected with a frame-like structure, if I remember. Okay, yeah.
Yep. Well, you know, you can in 25,000 years, you can lose a lot of knowledge and gain it many times over. So, you know, so the question is we don't really know what the Kelleks knew and when they knew it.
Mm-hmm.
And one thing that we don't know is what happens. You know, I mean, we have this Kellek colony that's built itself up in the Joiner Kingdom. We've seen how that's affected the galaxy.
Yeah. How many survive when they left Alderaan, and how much time did it take to rebuild their colonies and,
right, and
their existence?
And what happens when they get a huge, I mean, their collective mind, what happens when it gets to a certain critical threshold, and how smart have they been in the past?
Mm-hmm.
You know, they have, if right now the colony is made up of a bunch of different collective minds, but imagine if it was all one collective mind.
Mm-hmm.
You know, how intelligent would it be?
Do you explore that a bit in the two next book?
Not really.
Okay.
Touch on it, but I don't, because I'm not concerned with the history of the Maw Station. You know, I'm just I've raised the question.
Okay.
But I don't answer it, so
okay.
I don't really explore how intelligent they have been in the past.
Okay. Very nice. Can continue?
Yep. We were just surfing on the web, and there's still no news of the Troydenning.com website. When can we expect to see it online?
Well, I actually have one designed, and I have to write the. I just have to write my bio and do a bunch of writing the material that goes on it.
Mm-hmm.
And so when I'm not busy writing books, I'll try and get that up.
Which will be in a long time.
Yeah, I've had the website.
Yeah, I know you did. Your name has been registered because I tried it. And during our last interview, you mentioned that it was in construction. So.
Yeah. I've registered the name, and I have the website prepared to go up, and I just have to finish providing the content, and then up it'll go. I've got the pictures and everything. It's all. You know, it's all laid out. I just need to provide the copy.
Okay.
All right. In the past few years, while you were writing the Darkness trilogy, did you actually had any time to read some of the Clone War novels?
Oh, yeah. Yep, I love the Clone Wars.
Cool.
Enjoyed them.
Okay, a side question here. Did you read Labyrinth of Evil?
I think I'm reading it now.
Okay. And you probably have seen the season 2 of Clone Wars, the animated series?
No, I haven't.
Okay. Because there's a big continuity problem between the two. Because both lead up to the start of Revenge of the Sith, but there's a big difference in between the two. So I will let you read it through and look at the Clone Wars, and you might...
You're an hyperspace member, right? By default.
I'm not a hyperspace member, as a matter of fact.
You're not?
No, they sent me some form asking for some information that I didn't provide, and so I didn't end up being the hyperspace member.
Okay.
You think it's something they would just, like,
give the authors? Yeah. But
well, I think that they were giving it to me. I just... you know, they ask for. I get tons of forms asking for personal information.
Mm-hmm. Yeah.
And I didn't recognize who it was from.
Okay.
And I didn't provide the information, and then I didn't get to be a member of hyperspace, so.
Okay.
Yeah.
I'm sure if you ask back.
Yeah, I'm sure they would make me a member if I.
Because you have still, you know, 5 books to come out.
Yeah.
I'm sure you could tease a few fans of yours on the official website. How did you like Revenge of the Sith?
Oh, I thought it was a blast. It was easily the best of the prequel trilogies.
Mm-hmm.
And I'm trying to decide where it fits in the overall.
Not easy with the classic trilogy.
Right. I think I might like it better than Return of the Jedi even.
Ouch.
So it's hard to say. I keep going back and forth on that one. The ending of Revenge of the Sith was just, I just loved it, that opening battle scene. Mm-hmm. The boys,
visually, it was incredible.
Yeah. It was really, you know, it put your heart, you know, your stomach, turned your stomach over like the first movies did.
Yeah.
The first time I saw him, and so I was really, really wildly enthusiastic about it.
Did you read Matt Stover's novelization?
I read an earlier draft of it.
Okay.
Kind of pieces of it as I needed to.
Yeah.
But kind of give you a little hint.
Mm-hmm.
A lot of the stuff that
is
from earlier versions. I would, at different times I was read pieces of the script and
okay.
given different versions of the book. And as you go through, a careful reader will probably be able to discern that there are hints as to earlier versions of the
nice.
Manuscript and of the screenplay and stuff
mm-hmm.
in what R2 reveals.
Cool.
See, things like, I will probably see I was fully spoiled.
So it was kind of,
mm-hmm.
it was a little bit fun because when I yeah. you know actually got to see the final movie, it was, I was noticing, oh, there's that, you know, that's not quite what they said in the earlier script, or
mm-hmm.
what, that's not quite what Matt wrote, you know, and so that some of those differences are reflected in the books.
Well, if you like Revenge of the Sith, you will love the novelization. It's incredible.
Oh, yeah. Yeah, I've read enough of it to know.
Okay.
You know, I've kind of read it in pieces and in different versions.
Okay.
And so I've, you know, I've seen the parts that were excised, the dragon parts and all that kind of stuff. I've seen all of that and enjoyed it.
Okay, we have a new question popping up in the chat. Have you had to revise what you know about the Star Wars universe with the contradiction with that was written versus episode 1, 2, 3? And do you think the new TV show will damage the continuity more?
You know, I continuity is important only in as much as it pulls a reader out of the universe.
Mm-hmm.
You know, when you have a continuity error and the reader recognizes it, and it jars them a little bit out of the story. And from a writer's standpoint, that's what's important about continuity. So if, for instance, when George had to go back and I'm hard pressed to even think of what the continuity changes were, but I knew that he did change some things between the original trilogy and the prequels,
mm-hmm.
and do some things that didn't match the continuity of the EU. It didn't bother me at all because, you know, he's trying to tell a story and he's trying to tell the best story he can.
Mm-hmm.
And if that doesn't match what was written in the EU, I think that he's perfectly proper of him to just tell the story the way that it needs to be told. And I think that the same is going to be true for the TV shows, that they may or may not be able to use the continuity that's been established in the EU.
Okay.
Because, you know, they're two different things. A novel is a heck of a lot different than a TV program.
Mm-hmm.
And what works for a novel isn't going to always work for a TV program.
The best explanation I read about continuity is that it's like a big story told by different people, different storytellers, and everybody has his own version. Of course, George Lucas has the closest version to the right version, but all the other storytellers have version of the story. So if you have continuity problem, it's just because the story was lost through time.
Yeah, or different people saw it different ways.
Yeah, that's it.
And that's exactly true. I mean, you know, I was at one point somebody asked me about Star by Star and Point of View. And, you know, if I had written Star by Star from the point of view of Yuuzhan Vong primarily,
mm-hmm.
you know, all of the same things would have happened, but they would have been seen in a much different light. And so there's a different, you know, it's the same story. But the continuity would be different for a Yuuzhan Vong
mm-hmm.
view, you know.
Yeah. And for myself, as long as the story is enjoyable, I don't mind continuity errors. So.
Yeah. You know, I mean, some of them are just, you know, you try as hard as you can, and
mm-hmm.
I really try hard not to make continuity errors, but they happen sometimes.
Yeah.
And you just,
You know, you can't write a story if you wanted to write a story with no continuity errors, you probably would never end up finishing the story because you'd be doing continuity checks the whole time.
That's it.
And a lot of times there's things that contradict out each other, contradict themselves already out there, and you don't know which one to go with. You just have to make a guess.
Mm-hmm. That's it. Do you think it would be a good idea for Lucas Licensing to actually hire one guy or gal?
There's somebody, I think.
They have people that do check the continuity already.
Continuity police.
Yeah, it's Leland Shee, I think.
And they do a great job. They do a wonderful job. It's just that you know, it's hard to be perfect.
Mm-hmm.
And it's really hard to be perfect when you have so many people involved.
Yeah. There's so much information now. It's almost, it's so huge.
Yeah. I mean, I read tons and tons of Star Wars stuff trying to keep up with it.
All right. We have two liners for you.
Okay.
Did Danny...
Yeah, I send you an email with those. I don't know if you have the email close to you or not.
I can get there.
But it's really easy. It's the basic ones are, hi, this is Troy Denning, author of the Darkness Trilogy, and you are listening to Star Wars on Direct. And the second one is just, hi, this is Troy Denning, co-author of the Legacy of the Force series, and you are listening to Star Wars on Direct. So,
okay. Let me pull them up.
No problem.
You can just by error send us like any information regarding the rest of the Darkness series while you're at it.
By error?
You know, it's just like reply all.
Yeah.
Forward.
Yeah, there's a lot of stuff to know that I, fortunately, I don't think I touched on anything I really shouldn't have.
You know, because your head would have exploded with the Lucasfilm implant, so...
Yeah,
no kidding.
You're still alive, that's good.
Yeah. Are you ready for it?
Yep.
Okay. Hi, this is Troy Denning, author of the Darkness Trilogy, and you are listening to Star Wars on Direct.
That's good.
Hi, this is Troy Denning, co-author of the Legacy of the Force series, and you are listening to Star Wars on Direct.
That's enough. Thank you.
That's good by us.
You're welcome.
Quick question regarding Celebration 3. Do you enjoy going to conventions?
Oh yeah, I love it. I love especially like Celebration 3 it's my favorite. But I go to others when I'm invited and usually have a pretty good time.
All right. Well, that's good to know.
Maybe we will see you at Celebration 4, maybe.
Yeah, if they have one, I'll be there.
or maybe we'll see you sooner. I mean, you still live in Wisconsin?
Yes, I do.
So, who knows? That's not too far away from Canada.
No, it isn't. I've actually been to Canada once, so...
Cool. Right.
Well, thanks a lot for being here. Will we get the chance to talk to you when Unseen Queen hit the bookstores?
Sure. Yep, just drop me an email and I'll be happy to talk with you about it.
Cool, thanks a lot.
All right, thank you.
No problem.
See you next time. Thanks a lot.
Bye.
Bye. Bye.
Et c'était l'entrevue avec Monsieur Troy Denning, l'auteur de la trilogie Darkness. On a vu pendant tout ce temps, vous avez pu entrevoir une petite mise en scène de miniature de moi et Sébastien. puis aussi quelques blagues qui se font dans le chat. Attends que je retrouve ça. Bien sûr qu'il y en a qui aiment bien mon accent. c'est où est-ce qu'il dit ça? Ah, c'est ça. Ici, t'as Jaina qui mentionne « On sait comment part Chewbacca, dans le sens comment il meurt. » Nomana de répliquer « Il a toujours eu la tête dans la lune. » Moi, j'ai oublié le... Et voilà. Bon, rapidement, vu qu'on est déjà une demi-heure de dépassé notre temps, les questions qui étaient posées à Troy Denning, on lui a demandé si depuis... la dernière émission, s'il a travaillé sur d'autres livres, il dit non, c'était pas mal seulement sur la trilogie post-NGO, et puis en plus, il a développé son propre univers, il a trois livres de prévu, puis ces romans-là vont être écrits entre chacun de ses romans de l'ère Legacy. On a mentionné dans Tatooine Ghost qu'il y avait des enregistrements d'R2-D2. Où est-ce que Luke il découvre sa mère Padmé, etc. On lui a demandé l'idée venait de qui. Il a répondu que l'idée venait de lui-même. Je lui ai demandé pourquoi R2 a filmé Padmé. Sa réponse était tout simplement que R2-D2 enregistre tout. Ça, c'est la réponse officielle. Mais l'idée originale que Troy avait était que Anakin espionnait Padmé. Puis il y avait une autre idée originale qui était que R2-D2 était infecté par un spyware. Aussi, il a manqué qu'il a ramené les Killix qui étaient mentionnés dans Tatooine Ghost. D'où vient l'inspiration? Est-ce que ça vient de Star Trek? Puis les Borg? Donc là, il nous a répondu. Il n'écoute pas vraiment Star Trek. Les bonnes idées finissent toujours par sortir.
Grands esprits se rencontrent.
Ouais, c'est ça. Il y a des discussions avec des confrères aussi qui mentionnaient que les insectes sont la race la plus forte sur la planète. Puis il voulait leur prouver en écrivant ces livres-là. Je mentionne aussi, j'ai remarqué que tous les noms des colonies dans le livre, c'est toutes des palindromes, autrement dit des mots qui se livrent à l'endroit comme à l'envers. Puis je voulais savoir si c'était le but de faire ça ou si c'était juste pour le plaisir. Puis il a dit que c'était volontaire pour qu'on ne fasse pas la différence entre un individu et l'esprit collectif d'équilibre, qu'on sache pas vraiment qu'on sache que quand on parle d'un individu, on parle automatiquement de la collectivité. Là, j'ai demandé parler que la publicité concernant la sortie de son roman était très très minime, à part une nouvelle sur StarWars.com le 15 février. Il n'y avait absolument rien eu à part sur les sites de fans. Puis s'il trouvait ça bizarre que c'était pas beaucoup, il n'y avait pas eu beaucoup de promotion. Disons qu'il voulait pas répondre. Il a seulement dit qu'il aimerait avoir plus de promos comme tous les autres auteurs.
Et comme par hasard.
Ouais, comme par hasard, la soirée même après notre émission, StarWars.com a fait paraître
une nouvelle
qui avait été parue sur randomhouse.com quelques jours auparavant.
Donc c'est
soit paste là.
C'est ça, soit c'est deux choses, soit que ils ont dit on va peut-être leur laisser l'exclusivité pour une fois, ce qui m'étonnerait énormément, ou soit qu'ils ont écouté le show puis ont fait oh merde c'est ça qu'on a oublié de faire.
C'est ça. On est tellement préoccupé à boire puis à fumer.
Ah ça c'est ça.
On a demandé est-ce qu'on va voir les squibs dans la trilogie Darkness. Les squibs, c'est une petite race de pas des voleurs, mais en tout cas dans Tatooine Ghost.
C'est des emprunteurs à long terme.
Ouais, c'est ça. Puis Clint nous a dit comment ça que vous me posez cette question là. Avez-vous lu une copie préliminaire de Unseen Queen? Puis il a dit ben on a dit non, c'est une chance qu'on posait ça. Puis il dit ben il y a des chances. T'sais. Il voulait pas le dire. Il ne voulait pas vraiment le dire. Là, il a mentionné que, bon, durant la dernière interview qu'il avait faite avec nous, il nous avait mentionné que Kip Duran, il était vraiment dérangé. Il n'aimait pas ce personnage-là puis qu'il aimerait ça qu'il meure. Est-ce que son idée sur le personnage a changé depuis le temps? Puis là, il a dit qu'avec Dark Journey, il a commencé... Dark Journey, c'est le... En français, j'ai eu Sombre Voyage, je pense, de... Ellen Cunningham, il a commencé à aimer Kip Duron. Mais Kip Duron est sur la limite de la survivabilité. Il aimait Anakin Solo et pourtant il l'a tué, donc on ne sait jamais. Aussi, on lui a parlé de la nouvelle philosophie de la force dans Darkness, qu'on montre que les Jedi ont de la difficulté à différencier le bien du mal, etc., etc. On parle de Jason qui est pas discipliné puis qui est rendu super puissant. Puis on se demande, la majorité des fans voient les Jedi comme plus faibles qu'avant. Là, lui, il répond que les Jedi sont vraiment très puissants, même côté tactique. Le problème, c'est qu'ils ont de la difficulté à déterminer ce qu'ils doivent faire. Ce qu'est le bien ou le mal. Ils ne voient pas les limites aussi facilement qu'avant. C'est plus ça le conflit dans Darkness. Est-ce que les jeunes Jedi devraient être en contrôle d'un conseil Jedi, un peu comme dans le temps de l'ancienne République, avant qu'ils deviennent trop reckless, comment tu dis ça, trop hors de contrôle.
Hors de contrôle, c'est ça.
Il mentionne simplement que la question de la trilogie, c'est la question que la trilogie sera expliquée. On mentionne que Jason a appris plusieurs pouvoirs durant les 5 dernières années, incluant la possibilité de parler dans le futur avec la force. On lui a demandé si ça jouait avec la destinée, etc. Est-ce que Jason est en train de devenir le nouveau Darth Vader? Troy répond que les pouvoirs de Jason sont très dangereux. Il y a plusieurs futurs, tels que Yoda le dit, le futur est toujours en mouvement. Et si tu peux aller modifier le futur, il n'est plus en motion, il n'est plus en mouvement, donc c'est très dangereux. Aussi, on mentionne que Mara Jade utilise la force dans The Journey King, à la grande surprise de Luke. Puis on voit aussi Luke utiliser les éclairs de la force sur la couverture du troisième livre, Swarm War. Est-ce que c'est un indice de ce qui va devenir de Luke? Lui, répond, les lecteurs ne devraient pas voir la couverture comme le chemin que Luke prendra, c'est-à-dire le Dark Side. C'est une métaphore, mais il ne dit pas qu'il ne prendra pas cette direction non plus. Donc, il déjoue un peu. On lui a mentionné de confirmer certaines informations. On lui a demandé, le roman a été approuvé à 333 pages, le prochain, là, Unseen Queen, mais le manuscrit original était à 443 pages. On lui a demandé à quoi était due la diminution, s'il y avait des choses qui avaient été coupées. Il dit non, c'est juste une question de formatage. On mentionne aussi que The Storm War est listé à 640 pages, mais le manuscrit était 466 pages, et que Sue Rustoni, sur le forum de StarWars.com, avait mentionné qu'il y avait quelques expansions à venir. Donc, c'était des nouvelles pour lui. Il n'était pas au courant. Il ne sait pas s'il va avoir quelque chose de rajouté à l'intérieur. Ça peut être une question de formatage aussi encore. Et puis, on y a mentionné que Swarm War avait été repoussé au 27 décembre. On lui a demandé, est-ce que c'était à cause du roman de James Luceno, Dark Lords? Trenning ne le savait pas. Il dit, aucune idée. Il dit, c'est probablement pour faire place à un hardcover et parce qu'il a remis son manuscrit légèrement en retard. On lui a demandé aussi, après NGO, tous les personnages pouvaient mourir. Ce qui n'était pas le cas dans la période Bantam. Les personnages étaient pratiquement invincibles. Darkness semblait dans la même direction. Sans nous dire qui, est-ce qu'il y a un personnage principal tel que Chewie ou Anakin Solo qui va mourir dans la trilogie? Il dit quelqu'un meurt, mais il ne veut pas dire de quelle importance. Combien de jours, mois ou années y a-t-il entre chaque livre de la trilogie? Il dit, après le premier, entre le premier et le deuxième, il y a un an. Entre le deuxième et le troisième, il y a deux à trois semaines. Chacun des romans s'écoule sur quelques mois. Ensuite, est-ce que vous avez commencé à écrire vos livres de la série Legacy of the Force? Puis qu'est-ce qu'on peut espérer de tes trois livres à toi? Il mentionne que vous pouvez espérer un chef-d'œuvre à la blague, bien sûr. Mais il mentionne les Killix, les Squeal, les personnages classiques comme Anne et Léa et Luke. On lui a demandé s'il aimait davantage les Young Jedi depuis qu'ils utilisent la force différemment. Il dit oui, car c'est facile pour eux de prendre le mauvais chemin, donc c'est plus fun à jouer avec ces personnages-là. Les Young Jedi Knights seront-ils plus utilisés, car Anne, Léa et Luke commencent à se faire vieux? Il répond, dans l'univers Star Wars, les gens ont la technologie et la nutrition pour être plus en santé. Donc, vivre au plus que 100 ans est facile. Ensuite, il y a un fan qui a posé la question, pourquoi Jaina semble être aussi faible dans ce roman? Pourtant, elle est l'épée des Jedi, le Sword of the Jedi. Il répond, Jaina est très puissante dans le roman, même si ça n'en a pas l'air. C'est elle qui a empêché la guerre. Elle s'est rendue compte qu'elle était contrôlée par l'essaim, le Hive, et elle a été mise de côté. Elle a mis la conscience de la communauté de côté afin de faire son travail de Jedi. Aussi une autre question de fan. Pourquoi Mara Jade ne fait pas confiance à Jason quand il offre de rester avec Ben Skywalker, bien sûr son fils? Il répond, Mara est craintive de ce que Jason a appris lors de ses apprentissages au cours des 5 dernières années, surtout qu'elle sait qu'il est capable d'aller dans le futur, etc. Donc elle fait un petit peu moins confiance. Il a demandé de quoi valaient les Stealth X, c'est les nouveaux X-Wing des Jedi. Il dit que c'est un X-Wing noir avec des angles un peu comme les chasseurs Stealth de nos jours, avec un cloaking device, un engin de furtivité, je dirais.
Un engin furtif.
Un engin furtif placé à l'arrière. C'est le genre de chasseur que méritaient les Jedi. Donc il dit que les Jedi sont des super puissances, on va leur donner un X-Wing qui est très à leur niveau. Une autre question de fan qui disait pourquoi les nouveaux ennemis sont des bestioles. Troy répond simplement car ils sont sous-estimés. Un peu qu'est-ce qu'il répondait aussi au début que c'était que les insectes étaient très puissants. La relation entre Jenna et Jag fell. Beaucoup de fans veulent qu'ils aboutissent ensemble. Vont-ils le faire dans Darkness? Troy mentionne Jenna est trop importante pour l'ordre Jedi et est très indépendante. Jack voulait que Jenna la rejoigne chez les Schiss comme une simple femme à domicile, etc. Donc, vont-ils se rejoindre? Les choses peuvent changer. Ils ont chacun encore des sentiments l'un pour l'autre. Ensuite, est-ce que le Conseil Jedi est en péril puisque l'Alliance Galactique ne veut pas renouveler les investissements s'ils ne font pas les tâches du gouvernement? Troy répond, c'est une grande partie de l'histoire, c'est le devoir de la conscience contre le devoir de l'État, du gouvernement, autrement dit. Est-ce qu'on aide l'État ou on aide notre conscience ou on fait qu'est-ce que la Force nous dit? Est-ce que Ben Skywalker pourra retrouver son pouvoir dans la Force? Troy Denning mentionne, oui, il sera aidé par une personne inattendue. Donc, à voir. Bon, on a parlé des discussions sur l'âge des Kylik, leur évolution, qu'ils ont plus que 25 000 ans, que c'est eux qui ont fait Maw, Installation, puis Center Point, qui ont peut-être, après avoir quitté Alderaan, que leur existence a peut-être diminué beaucoup en population, puis que ça s'est reconstruit. Peut-être qu'ils étaient très technologiques avant, puis qu'ils sont moins maintenant. En 25 000 ans, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. On lui a demandé, penses-tu que la série télé va détruire la continuité? Troy mentionne les erreurs sont inévitables autant dans les romans qu'à la TV, mais on essaie d'en faire le moins possible. Si ce n'est pas évident de façon flagrante, il n'y a pas de problème. Ça devrait être la même chose pour la série télé. Autrement dit, pour lui, si une erreur de continuité n'est pas flagrante puis qui saute aux yeux à tous les fans, c'est pas un problème trop important. Alors, il a demandé qu'est-ce qui arrivait de son site web qu'il n'a pas encore vu le jour, troydenning.com. Il dit il reste quelques détails comme ses bio à écrire et quelques trucs, mais tout est prêt pour le reste à mettre en ligne. On lui a demandé est-ce que tu as eu le temps de lire certains romans de Clone Wars? Il dit oui, il aime beaucoup Clone Wars, il reste à jour dans ses lectures. On lui a demandé comment il avait aimé le film Revenge of the Sith. Il dit c'est incroyable, le meilleur de la prélogie. Il aime probablement plus que Return of the Jedi. As-tu lu l'adaptation littéraire de Matt Stover? Il dit oui. En fait, les enregistrements de R2 dans Darkness, où c'est que Luke découvre sa mère Padmé, sont issus d'une version préliminaire du roman et du script. Alors, c'était tout. C'est toutes les questions qui lui ont été posées. Et voilà. Donc, est-ce qu'on a terminé? Je crois que oui. Donc, vu qu'on est très en retard, je vous rappelle qu'en fin de semaine, pas en fin de semaine, mais mardi prochain, mardi à 19h, heure de l'Est, ça va être notre émission en anglais. On va discuter des miniatures des Universe Huge, la nouvelle série qui vient de sortir. La prochaine émission en français devrait être en septembre, possiblement la fin de semaine après mon retour de Paris. Sinon, ben venez me rencontrer à Paris du 9 au 20 octobre, ben, c'est plus précisément le 10 septembre. Au but de Chaumont, allez voir dans le forum sur siteclan.net, sur le forum rencontres et événements sur siteclan.net sur le topic lunatique à Paris pour avoir tous les détails. Si vous voulez me rencontrer, me serrer la pince et discuter de Star Wars en direct, siteclan et tout autre chose. Donc, on se voit. Tout dépendant les activités qu'il va avoir en revenant de Paris, peut-être qu'il n'y aura pas d'émission en septembre. Si c'est le camping de Michael ou quoi que ce soit, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Enfin, on remercie nos commanditaires, c'est clan.net, Legend Action Figures, toy-palace.com et simple-net.ca, nos partenaires Star Wars Galaxies France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe, Anakin Web, Roger One, Anakin World, Star Wars Connection, Mostumbra Vegas, Star Wars en France, Dernière Bataille, dernière-bataille.com, Empire-Site et Espoir Jedi. Tous les liens sont disponibles sur swendirect.com. Nous rappelons nos partenaires qui peuvent envoyer des communiqués concernant leur sortie de fan pour que nous puissions les mentionner. Si vous avez des commentaires ou suggestions de sujets, écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com, studio@swendirect.com. Si vous voulez commanditer l'émission ou être un partenaire, ou envoyer votre démo en tant qu'animateur français pour Star Wars en direct, envoyez tout ça à info@swendirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, parlez-en autour de vous, car c'est le bouche-à-oreille qui est notre meilleure publicité. Je vous rappelle d'aller signer la pétition pour sauver la cantina sur Tatooine. Donc, allez sur la page d'accueil de siteclan.net, swendirect.com. Sur la page française, il y a un lien « Sauver la cantina ». Et puis cliquez là-dessus pour accéder à la pétition. Sur ce, autre chose à dire, Sébastien? Bonne fête encore.
Si je crois que ça conclut pas mal l'émission.
Donc, à dans un mois et possiblement à Paris pour certaines personnes qui m'écoutent, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveur de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsEnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission.